Merci beaucoup. C'est difficile de prendre la parole après un si beau texte, mais effectivement, on est au cœur de la service, comme vous allez vous en rendre compte bientôt. Alors, je tiens à vous dire, pour que vous soyez très libre des notes, c'est que mon texte sera donc en format PDF sur Internet, mais comme tout le monde n'a pas Internet, je laisserai une copie papier, et donc vous pourrez peut-être en tirer une copie papier pour ceux qui veulent. Donc je laisserai mon texte ici. Voilà. Alors, ce que vous avez entre les mains, ce sont les textes que je vais lire avec vous, car après avoir essayé de définir ce qu'est le messianisme, je vais avec vous lire les textes que vous avez, pas entièrement bien sûr, mais ça vous permettra de rentrer dans un univers qui est, Dieu sait, complexe. C'est l'univers des apocalypses juives du début de l'ère chrétienne. J'ai intitulé donc cette conférence « Du messianisme aux figures au pluriel du Messie ». Vous le savez, à l'instar de la résurrection des morts, le messianisme appartient pleinement au scénario de la fin du monde, à l'eschatologie juive, même si à l'occasion il peut être absent de cette eschatologie. Pourtant, à y regarder de plus près, l'idée même de Messie prend une place beaucoup plus importante dans le Nouveau Testament que dans la littérature juive aux environs du 1er siècle. On peut en effet se poser la question, et avec un auteur, se demander si le concept même qui définit le Messie n'est pas un produit de la réflexion chrétienne avant d'être une conception juive. La question que les pharisiens posent à Jean, es-tu le Christ, Élie ou le prophète, reflète la complexité des attentes du 1er siècle, et en même temps, elles peuvent faire illusion. Nous verrons que certains courants juifs n'attendaient pas la venue du Messie. Il convient donc, dans un premier temps, et c'est ce que je vais faire, de préciser ce que j'entends par messianisme. Peut-être pour lever tout équivoque sur un terme trop large. Et dans un deuxième temps, et c'est les papiers que vous avez entre les mains, j'essaierai de voir comment, sur le fond de ce messianisme, se déploient différentes figures du Messie aux abords de l'ère chrétienne. Je commence donc par l'histoire de ce concept que je résumerai ainsi, du roi d'Israël au Messie juif. Vous le savez, le terme Messie, de l'hébreu Mashiach ou de l'araméen Meshecha, est un adjectif verbal de forme passive qui veut dire oint, frotté d'huile. Il appartient au rite de couronnement et désigne en premier lieu le roi dont la personne est sacrée. L'idéologie royale caractéristique du royaume de Juda fait de loin du Seigneur, du roi loin du Seigneur, et on sait que l'oracle du prophète Nathan, au chapitre 7 du deuxième livre de Samuel, assure la pérennité de la dynastie davidique. On peut résumer cela par une proposition que je vous fais. La figure de Messie renvoie en premier lieu à un personnage royal marqué par l'huile d'onction, un homme appelé à rassembler le peuple de Dieu dans la justice et le droit et à le sauver des attaques de ses adversaires. Comme tel, il est l'instrument de Dieu, issu de la lignée davidique, sans qu'il faille pour autant lui accorder, le moins du monde, une origine divine. À cette image fortement sacralisée du Messie, qui caractérise l'idéologie royale judéenne, se superpose une image que je dirais un peu plus démocratisée, en faisant un doux euphémisme, en tout cas plus populaire, celle que l'on trouve par exemple dans la demande des anciens à Samuel, « Donne-nous un roi qui régnera sur nous et mènera nos combats », ou celle qui conduit à l'onction de David, par le choix de Judas d'abord, puis de tout Israël. Selon cette vision plus démocratisée, le roi est moins une personne sacrée qu'un chef qui mène Israël à la victoire. Voici ce que disent les anciens par exemple. Notre roi nous jugera, il sortira à notre tête, il combattra nos combats. Au demeurant, il ne faut pas trop creuser le fossé entre la vision sacralisée et la vision plus populaire ou démocratique. Nous sommes dans un monde où la distinction entre le politique et le religieux n'existe pas, où le roi, comme médiateur du bien-être, est aussi garant d'un ordre religieux. Et cela est commun à toute l'idéologie du Proche-Orient ancien. Le premier texte que je vais lire avec vous est tout à fait intéressant. C'est un texte écrit par un scribe assyrien et qui décrit le roi Assurbanipal, qui a régné entre 666 et 627 avant l'ère chrétienne. Et Assurbanipal est un roi assyrien. Ce texte est remarquable, il pourrait être dit de Moïse, mais plutôt de David ou de Salomon. Les vieillards sont joyeux, les enfants chantent, les femmes et les jeunes filles exultent. Celui que ses péchés condamnaient à mort, le roi, notre maître, l'a fait vivre. Ceux qui, depuis de longues années, étaient emprisonnés, tu les as délivrés. Ceux qui, durant de nombreux jours, étaient malades, les voici guéris. Les affamés sont rassasiés, les maigres deviennent gras, ceux qui étaient nus sont recouverts de vêtements. C'est pas le Magnificat que je vous dis, c'est un texte assyrien du 7e siècle avant l'ère chrétienne. La réalité pourtant fut bien différente. Comme il découle des nombreuses critiques que les milieux de sagesse, je pense au livre des Proverbes, ou plus encore les prophètes, vont faire au roi. Au premier rang desquels le prophète Jérémie. Et il est très intéressant de voir que dans l'état final du livre de Jérémie, le chapitre 22, qui est un livret qui dénonce les rois d'Israël, est suivi au chapitre 23 par une ouverture messianique très forte, l'accroche entre les deux étant le terme de pasteur. Je lis un extrait de Jérémie 23. Voici, des jours viennent, oracle du Seigneur, et je ferai lever pour David un germe juste. Tsemar tzadik. Un roi régnera et il réussira. Il fera droit et justice sur la terre. En ces jours, Juda sera sauvé, Israël habitera en sécurité. Ceci est le nom dont on appellera le Seigneur est notre justice, Adonai Tzidkenu. C'est d'autant plus intéressant que Adonai cite que nous, le Seigneur est notre justice, et le nom du dernier roi régnant d'Israël, c'est Zédékias. Ainsi donc, on le voit bien à travers ce texte de Jérémie, là c'est un texte de rédaction post-exilique, le roi est un pasteur amené à conduire dans le droit et la justice son peuple. Un autre texte, pris cette fois-ci dans la Torah, va encore plus loin. Il décrit le roi comme un homme sans richesse, fort seulement de l'écoute de la parole de Dieu qu'il doit de sa propre main écrire. Il sera pris parmi ses frères et symbolise Israël en sa fidélité. Bien sûr, je parle de Deutéronome, chapitre 17, versets 14 à 20. Dès lors, et c'est l'hypothèse que je pose, on peut se demander si l'idée de Messie n'est pas né de la critique radicale de la royauté par les prophètes. Et si ce n'est pas une projection dans l'utopie de cette royauté. Si c'est bien le cas, même si le messianisme trouve ses racines dans l'idéologie royale pré-exilique, ça revient à dire que le messianisme est né de l'échec de la dynastie davidique à conduire Israël au salut. Au-delà d'un roi empirique qui conduit Juda au double exil de 597 et de 587, l'idée messianique projette dans l'espérance l'idéal du droit et de la justice attaché à la figure du roi. Il est en tout cas évident que le terme Messie, au sens fort du terme et technique, est quasiment absent des textes vétérotestamentaires. Et quand on rencontre le mot « oin », il désigne d'abord un personnage historique qui peut être Saül, David, mais aussi un roi étranger, comme par exemple Cyrus le Perse, dans un oracle étonnant du second Isaïe, c'est Isaïe, chapitre 45, verset 1. On voit donc que le messianisme connaît un développement assez curieux que je résume en trois étapes. La première étape, la plus archaïque, c'est celle de la royauté. Au point de départ, chaque roi issu de David est un messie en espérance, un messie présomptif. À ce stade, il est une figure sacrée, frottée d'huile, une sorte de portrait idéalisé de ce que doit être le roi. Une terreur sacrée entoure sa personne, car il est oint d'huile, comme sont oints d'huile les autels et les stèles. À ce premier niveau, nous sommes proches de l'idéologie royale commune à l'Orient ancien. Au deuxième niveau, la chute de Jérusalem en 587, et avec la chute de la cité d'une dynastie royale, oppose un cruel démenti à l'espérance. Et la foi d'Israël est interrogée en profondeur. Contrairement à ses attentes, le roi issu de David a conduit Juda à l'exil. Ce qui fait que dans un oracle puissant, le prophète Ézéchiel, ou peut-être ses héritiers, en tire les conclusions. Les rois furent de mauvais pasteurs qui ont laissé égarer le troupeau. Dieu rassemblera lui-même le troupeau, il le ramènera vers sa terre et il le confiera à un nouveau David. Je vous lis Ézéchiel 34, versets 23 et suivants. Je susciterai à leur tête un berger unique, lui le fera paître, mon serviteur David. Lui le fera paître, lui sera leur berger. Et moi, le Seigneur, je serai leur Dieu. Mon serviteur sera prince au milieu d'eux. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Entre parenthèses, vous voyez que Ézéchiel ne parle pas de roi Meler, mais de prince Nassi, car Dieu seul est roi. Ici donc, l'attente se déplace clairement d'un roi en exercice vers un roi idéal de l'avenir, une figure eschatologique qui prélude ou accompagne l'avènement du règne de Dieu. Si pour beaucoup, cette attente a pris corps dans la personne de Zorobabel, le petit-fils exilé, le petit-fils du dernier roi exilé d'Israël, pour d'autres, plus nombreux sans doute, l'idée va être rejetée vers l'avenir. Ce sera l'idée d'un roi de l'avenir qui sera un roi idéal. Successeur légitime de David, il lui appartiendra de sauver le peuple de manière définitive et d'instaurer en même temps, d'une façon non moins durable, le règne de Dieu. De manière donc schématique, on peut dire que c'est la chute de la royauté réelle, empirique en Juda, qui fait naître sur un horizon utopique d'espérance l'idée même du Messie. Un messianisme terrestre, bien sûr, comme le rappelle à nouveau Ézéchiel, puisque la grande vision des ossements desséchés, un peuple revenant vivant dans sa terre, est étroitement liée au don du Messie, le chapitre 37e d'Ézéchiel. Le troisième stade de l'évolution, c'est l'instauration à partir du 5e siècle d'un état-temple, un état dans lequel ce n'est plus la figure du roi qui sera prégnante, mais celle du prêtre. Apparu au tout début du retour d'exil, cet idéal prend d'abord la forme d'une diarchie, un prêtre, à ses côtés un prince. Je vous renvoie à la vision de Zacharie, Zacharie chapitre 4e, les deux fils de l'huile, les deux oliviers autour de la menorah, le chandelier, à cette branche, qui sont le prince Zorobabel et le grand prêtre Josué. Mais cette vision hiérarchique va être très tôt récupérée par le seul souverain sacerdoce. Et d'ailleurs, il reviendra désormais au grand prêtre d'être oint, selon le modèle référentiel non plus de David, mais de Aaron. On peut donc dire que le retour d'exil va placer ou déplacer l'espérance d'un messie roi vers un messie prêtre. Au-delà de cette double ligne de développement royal sacerdotal, l'époque du retour d'exil va aussi déployer d'autres figures dans d'autres sens différents. Et d'abord, ce sera la figure prophétique du serviteur. Serviteur, image du peuple martyr, c'est Isaïe chapitre 53, bien sûr. Cette mise en valeur du rôle du serviteur prophétique, sans doute, réinterprète le texte de Deutéronome 18:18, j'enverrai un prophète semblable à toi, c'est-à-dire semblable à Moïse, et donc se réclame l'autorité de la Torah. Vous voyez donc que dans l'idée même du développement de l'idée de messianisme, on passe d'une image conforme à l'idéologie royale de l'Orient ancien, avant l'exil, et puis ensuite, devant l'échec de la royauté, on passe vers une vision d'un roi idéal pour arriver à des figures prophétiques et sacerdotales. C'est ce qu'on va retrouver de manière tout à fait extraordinaire dans les premiers siècles qui sont à l'aube de notre ère. Et donc là, je vais m'appuyer sur les textes que vous avez aujourd'hui. Sur fond de ce rapide parcours, je vais donc regarder la pluralité des figures de Messie que nous avons autour du premier siècle de l'ère chrétienne. Je les résume autour de quatre grandes catégories pour faire simple, bien sûr. Je commence d'abord par le messianisme sans Messie. Le messianisme sans Messie peut s'appuyer sur les psaumes du règne. C'est ces psaumes qui commencent par ce mot « Adonai Meler », le Seigneur est roi. Psaume 93, psaume 96, psaume 97 ou psaume 99. Le Seigneur est roi. Ce messianisme sans Messie apparaît notamment dans le texte qu'on appelle le Testament de Moïse, un fragment apocalyptique découvert en 1861 par un savant Seriani dans un palimpseste de la bibliothèque ambrosienne de Milan, mais le texte était déjà connu par Origène et par Clément d'Alexandrie. Le texte était en latin, mais il s'agit en fait de la traduction d'un texte grec, lui-même dépendant d'un original en hébreu. Son auteur était sans doute un Essénien de tendance quiétiste, rédigeant entre 7 et 30 de l'ère chrétienne, et plus enclin à un refuge dans la prière qu'à un combat contre les Romains, ce qui le distingue fortement des Esséniens de Qumran. Résumons un tout petit peu le testament de Moïse. Dans ce testament de Moïse, donc cet apocalypse juive des débuts de notre ère, Moïse s'adresse à Josué et il lui révèle l'histoire des tribus d'Israël, de l'entrée en terre promise jusqu'à l'époque d'Hérode et à la guerre menée contre Varus. Sur ce, dit le texte, les temps seront achevés en un moment. Alors régneront les hommes pestilentiels et impies qui se prétendront justes. Vient alors trois chapitres qui décrivent ces derniers temps comme un temps de ténèbres qui conduit à une persécution finale par le prince des nations et au retrait au désert d'un Lévite et de ses sept fils. Ces trois derniers chapitres sont emprunts sont marqués par des emprunts au livre des Maccabées et donc on décrit la persécution à venir sur le modèle de la persécution qu'a connue les Juifs du temps de Antiochus IV Épiphane. Alors, nous dit-on, après ce temps d'épreuve, sur la création viendra le règne de Dieu et je vous donne ici un extrait que je lis avec vous avant de le commenter. Car le céleste se lèvera de son trône royal et sortira de sa demeure sainte, indigne de colère en faveur de ses fils. La terre tremblera et sera ébranlée jusqu'à ses extrémités. Les hautes montagnes seront abaissées, elles seront ébranlées et s'écrouleront dans les vallées. Le soleil cessera de donner sa lumière. Ténèbres deviendront les cornes de la lune. Celles-ci seront brisées et tout entière en sang, celle-ci se changera. Bouleversée sera l'orbite des étoiles. La mer disparaîtra jusqu'aux abîmes. Les sources des eaux tariront. Les fleuves se dessécheront entièrement. Car le Dieu très haut, l'Éternel, l'unique, se lèvera et il viendra aux yeux de tous pour tirer vengeance des nations et anéantir les idoles. Le schéma du texte reprend le schéma apocalyptique du livre de Daniel. Un temps de ténèbres et de persécution, suivi d'une restauration finale des justes. Ici comme là, l'envoyé n'est pas le Messie, mais l'archange Saint-Michel, Michel qui est, je vous le rappelle, l'ange protecteur d'Israël. La figure de Michel apparaît aussi dans d'autres écrits contemporains, comme par exemple le livre des Veilleurs, tiré de l'Apocalypse d'Enoch, ou la règle de la guerre à Qumran. Investi donc de la charge de venger Israël de ses ennemis, Michel accomplit l'une des fonctions dévolues au roi Messie, absent ici. Son action précède la venue de Dieu qui sortira, dit le texte, de sa demeure sainte. Alors, la création tout entière sera bouleversée, on l'a vu, à travers la terre, les hautes montagnes, les astres, la mer, les sources, ce qui reprend bien sûr quelques prophéties, notamment de Isaïe ou des psaumes. Et Dieu se lèvera pour châtier les impies et récompenser Israël qui, écoutez bien le texte, sera fixé au ciel des étoiles au lieu de leur demeure. Dans une lettre de Paul, on a pratiquement les mêmes termes pour parler des justes de la résurrection, c'est 1 Corinthiens 15. Fixé au ciel des étoiles au lieu de leur demeure. Établi dans le monde céleste, le peuple de Dieu partagera alors la destinée angélique. Mais vous voyez bien que dans ces textes, ce n'est pas le Messie qui mène le combat, mais c'est Michel, c'est-à-dire l'ange protecteur d'Israël. Une autre forme de ce messianisme sans Messie est attestée à Qumran dans les écrits qui marquent les débuts de la secte. Je prends ici le mot secte dans un sens très, très global qui n'a rien à voir avec sectaire, bien sûr. Dans les écrits de Qumran, en fait, le messianisme est collectif et ce messianisme collectif s'inspire d'une lecture de Isaïe 40, verset 3. Conduite au désert par le maître de justice, la communauté tout entière est perçue comme messianique. Loin de donner à l'oracle d'Isaïe une portée eschatologique, qu'on trouve par exemple dans la relecture qu'on fait Malachie, l'auteur de la règle de la communauté réduit le séjour au désert à l'étude de la Torah, et c'est cette étude de la Torah qui constitue l'avènement de l'ère messianique. Je vous lis le texte. Quand cela existera en Israël, pour la communauté, selon ses dispositions, ils se sépareront du milieu de l'habitat des hommes d'iniquité pour aller au désert afin d'y préparer la voie de lui. Selon qui est écrit, dans le désert, préparer la voie d'eux, et vous remarquerez que par respect, le nom de Dieu n'est pas prononcé, mais il y a quatre traits, quatre étoiles pour le signifier. Dans le désert, préparer la voie d'eux, rendez droite dans la steppe une chaussée pour notre Dieu. Alors, on explique le texte d'Isaïe ainsi. Cela, c'est l'étude de la loi qu'il a prescrite par l'intermédiaire de Moïse pour qu'on agisse selon tout ce qu'il a été révélé temps par temps et selon ce que les prophètes ont révélé par son esprit de sainteté. La retraite au désert est donc ici prise au sens propre comme un retrait, celui-là même de la communauté de Qumran. Tandis que l'injonction « préparer la voie du Seigneur » reçoit un sens figuré, c'est l'étude, midrash, de la Torah, qui relève de la tâche messianique de la communauté. Convaincue de l'imminence de la fin des temps, la secte vit au bord du temps, ayant pour ainsi dire un pied dans l'ère présente et l'autre dans l'ère à venir. Ils sont convaincus que l'ère messianique arrivera de leur vivant, et pour préparer sa venue, ils se retirent au désert pour étudier la Torah. Ils deviennent les maîtres de la Torah. Ils se consacrent ainsi à préparer l'âge nouveau par l'étude de la Torah, mais nous sommes dans un messianisme collectif sans figure individuelle de Messie. Deuxième cas de figure, le plus connu, c'est le messianisme davidique. C'est l'image traditionnelle que nous avons du Messie fils de David et qui, bien sûr, n'est pas absente de l'espérance juive. Je citerai ici les psaumes de Salomon. Qu'est-ce que c'est que ce livre qu'on appelle les psaumes de Salomon? Ces psaumes de Salomon sont des textes du 1er siècle, vous allez le voir, avant l'ère chrétienne, proches par la théologie du monde pharisien. Les psaumes de Salomon réaffirme l'espérance classique dans un Messie fils de David. Ainsi, le psaume 17 de Salomon, que l'on peut dater de l'an moins 50, peu après que la ville de Jérusalem soit prise par les Romains et que Pompée le Grand, en 63, entre de manière sacrilège dans le temple de Jérusalem, puisqu'on évoque l'événement dans le psaume. La première partie est un fond de tableau très sombre, qui montre précisément le règne des impies. Puis nous arrivons au texte que vous avez, c'est l'appel pressant à la venue du Messie, suivi de la description du règne messianique. Je ne lis pas le texte, mais je vous le commenterai, vous le relirez tranquillement chez vous. D'emblée, le verset 21 demande à Dieu de susciter leur roi, fils de David, selon une formulation très proche d'Ézéchiel 37. En même temps, on oppose ce roi fils de David au roi impie que sont les rois asmonéens. Seul David, ou le Davidite, est élu par Dieu. Son œuvre comporte deux temps. D'abord, dans les versets 22 à 25, un temps de rupture. Il faut purifier Jérusalem en brisant l'orgueil des païens. Cette rupture est accomplie, je cite, par la sagesse, par la justice, de manière à détruire les païens impies d'une parole de sa bouche et à reprendre les pécheurs par la parole de leur cœur. Assurément, ce roi Messie doit plus aux scribes, lecteurs scrutateurs de la Torah, qu'aux guerriers, ce qui opère un déplacement, bien sûr, par rapport à l'image traditionnelle. Vient ensuite la description du temps messianique et le temps pour rebâtir. On l'a à partir du verset 26. Ce temps pour rebâtir est qualifié par deux termes, rassembler et juger. On y reconnaît l'idéal pharisien de séparation et de sanctification. Ainsi, le vocable saint, sanctifié, sanctification revient trois fois, relié au verbe rassembler, gouverner, purifier. Les racines d'une telle vision, là encore, sont proprement prophétiques. Je vous rappelle le texte de Ézéchiel 34 sur le bon pasteur. De même, on trouve dans le psaume de Salomon des allusions à la recomposition du pays. Prenez par exemple ce qui est dit dans le texte, il les répartira dans leurs tribus à la surface de la terre. L'immigré et l'étranger ne demeureront plus avec lui. Le mouvement messianique ici conduit les nations vers Jérusalem. Prenons par exemple le verset 30. Il purifiera Jérusalem par la sanctification, comme c'était autrefois, de sorte que les nations viendront de l'extrémité de la terre pour contempler sa gloire en apportant comme offrande ses fils à elles privés de leur force, et contempler la gloire du Seigneur avec laquelle Dieu l'a glorifié. De part et d'autre, on le voit, le mouvement est centripète, Jérusalem attire les nations, car comme en Isaïe 66, c'est bien de Jérusalem que surgit la lumière de la Torah, de sorte que le Messie apparaît là encore comme le maître de la Torah et non comme le guerrier. Je relève aussi quelques expressions le caractérisant, car elles ont un écho tout à fait intéressant. On dit par exemple au verset 32, leur roi est Christos Kyrios, Christ Seigneur. Les termes que l'on retrouve en Luc 2:11, Christos Kyrios. Ou encore on dit le Seigneur Dieu, son roi, son espérance. Ou encore on dit que le Messie sera, verset 36, pur de péché, saint dans ses œuvres et fort par la crainte de Dieu, car Dieu l'a fait puissant par l'Esprit Saint. Assurément, une telle description du Messie emprunte à deux sources la loi du roi de Deutéronome 17, mais surtout les grands oracles messianiques qu'on lit en Isaïe 11, le rameau qui sortira de la chousse de Jessé, en Michée 5, et toi, Jérusalem, et toi, Bethléem, tu n'es pas le moindre des clans de Juda, ou Ézéchiel 34. L'idéal est très enraciné dans les leçons pharisiennes, tous sont saints ou purs de péché. Ainsi donc, au sein d'un Israël purifié, le Messie ne règne pas par l'épée, mais tel un rabbi, ses discours seront comme les discours des saints au milieu des peuples sanctifiés. Ici, il faut entendre le mot saint comme dans le sens de ange. Ces discours seront comme les discours des anges au sein des peuples sanctifiés, c'est-à-dire purifiés de leurs péchés. On voit donc que le milieu porteur des psaumes de Salomon dépasse le cadre étroitement nationaliste de messianisme davidique. Le roi Messie est un maître de la Torah dont l'action pacifique vise la sanctification d'Israël et non pas le rétablissement de la puissance. À travers un langage hérité d'une tradition royale, le modèle est subverti et les sages de la synagogue peuvent y voir l'idéal sublimé de celui qui lit et accomplit la Torah. Une troisième vision du Messie qui apparaît fortement dans les textes, après donc ce messianisme sans Messie, ce Messie davidique, mais qui, comme vous le voyez, n'est plus le roi, mais le scrutateur, le maître de la Torah, c'est bien sûr le messianisme sacerdotal. Dans le parcours initial que j'ai fait en commençant, je vous ai montré comment on va glisser d'une figure royale vers la figure du grand prêtre. Et bien sûr, cela va apparaître de manière étonnante dans les textes de Qumran. Ou retrouvé à Qumran. Ainsi, proche des milieux essayés de Qumran, apparaît le texte connu sous le nom de Testament des 12 patriarches. En fait, nous avons chaque patriarche prend la parole et fait son testament. Ces testaments des 12 patriarches témoignent d'un bimessianisme. Prenons d'abord le testament de Lévi, qui va opposer le Messie-prêtre au prêtre asmonéen. Ça commence de manière extraordinaire. Il faut lire le début. Dans la septième année, viendront des prêtres idolâtres, combatifs, cupides, orgueilleux, impies, débauchés, pédéras et sodomites. Et après que leur châtiment sera exercé de la part du Seigneur, le sacerdoce expirera. Alors le Seigneur suscitera un prêtre nouveau. Ce prêtre nouveau s'oppose à Jonathan et au prêtre asmonéen. Je vous rappelle que la secte s'est retirée à Qumran, parce que précisément elle était en lutte contre les rois prêtres asmonéens. Dans ce testament donc, après une phase expiatoire où le sacerdoce expirera, Dieu fera naître un nouveau prêtre. Pour parler de ce prêtre, on va utiliser une ancienne prophétie, mais qui était royale. Son astre se lèvera dans le ciel. Vous avez tous reconnu, bien sûr, l'oracle de Balaam, Nombre 24, qui est aussi sous-jacent, bien sûr, au texte de Matthieu, nous avons vu son astre se lever en Orient. La reprise donc de l'oracle de Balaam concernant la montée de l'astre confère à cette figure de prêtre une couleur messianique certaine. Tandis que l'affirmation selon laquelle, pendant son sacerdoce, tout péché disparaîtra, rappelle que l'une des caractéristiques du Messie, c'est qu'il est pur du péché. En final, le texte va évoquer un retournement du drame de l'Éden. Il ouvrira les portes du paradis et il écartera d'Éden l'épée menaçante. Il donnera aux saints à manger de l'arbre de vie. Cette image paradisiaque est encore héritée des prophètes, et notamment d'Ézéchiel 36, verset 35, où, sous l'action du souffle nouveau, le pays dévasté, je cite, est devenu comme un jardin d'Éden. Autre écho, c'est la source d'eau vive qui coule du côté droit du temple, Ézéchiel 47. Tout cela montre bien l'enracinement du Testament dans les milieux sacerdotaux et prophétiques. De même que le thème de la jubilation, les cieux jubileront dans ces jours, la terre éprouvera de la joie et les nuées se réjouiront, n'est pas sans rappeler la parole que Jésus dira sur lui-même en Jean 8, Abraham, votre père, a exulté à la pensée de voir mon jour, il l'a vu, il a été transporté de joie. On a donc clairement ici un messianisme prêtre sacerdotal, et aux côtés de ce messie prêtre, il y a le messie prince dans le testament de Judas, mais pour ne pas allonger, je ne vous ai pas mis un extrait du testament de Judas. Le plus intéressant dans le testament de Judas, c'est de voir que, bien qu'on nous parle de Judas, en fait, on vous dit que le premier-né est Lévi, ce qui n'est pas vrai, car dans la Genèse, Lévi n'est que le troisième fils. Et au lien qu'à Qumran, ou dans les milieux esséniens, c'est toujours au prêtre que revient la prééminence. Je cite un extrait de la règle de la communauté où le Messie prêtre et le Messie roi sont accompagnés ou précédés du prophète. Ils ne s'écarteront d'aucun précepte de la loi pour marcher dans toute l'obstination de leur cœur et qu'ils soient jugés d'après les ordonnances premières selon lesquelles les membres de la communauté ont commencé à se corriger jusqu'à la venue du prophète et des messies d'Aaron et d'Israël. On peut voir là une réaction contre un pouvoir assyrien qui ne distinguait pas l'autorité du prêtre de celle du roi, en même temps que l'on voit le retour de la hiérarchie roi et prêtre des deux fils de l'huile, qui était très importante en Israël depuis le retour d'exil. Toujours dans ce messianisme sacerdotal, on va voir que non seulement à Qumran, on donne la prééminence au prêtre, mais on va montrer que dans le repas messianique, c'est lui qui a aussi le rôle premier. C'est l'extrait que vous avez, règle de la congrégation ou règle annexe. On l'appelle comme ça, c'est un peu ridicule, mais c'était un morceau du parchemin qui était à côté, et donc comme il était à côté, on dit annexe, en fait ça fait partie bien sûr de la règle de la communauté. Voici l'ordre de session des hommes de renom, convoqués à la réunion pour le conseil de la communauté, au cas où Dieu ferait naître le Messie parmi eux. Le prêtre viendra en tête, et ensuite on prendra place le Messie d'Israël. Toujours ce même attachement au temple et à la figure du prêtre qui prend la place, qui prend le pas, pardon, sur le Messie davidique. Au demeurant, Qumran est loin d'être facile à lire, et le développement messianique à Qumran est très complexe. S'il prédomine certainement ce messianisme sacerdotal, on y trouve aussi une place importante pour le Messie davidique. Et ici un petit extrait du Midrash eschatologique que je vous lis. Il fonctionne autour de deux paroles d'écriture. Vous avez en note les paroles. Le Seigneur te déclare qu'il te construira une maison, je susciterai ta postérité après toi, on cite ici l'oracle de Nathan. Et on va commenter cette postérité, c'est le germe de David qui se lèvera avec le chercheur de la loi, c'est-à-dire le grand prêtre, à Sion à la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, je relèverai la hutte de David qui est tombée, on cite Amos chapitre 9. Le Midrash eschatologique donc reprend ici l'oracle dynastique pour parler de David. Mais il montre qu'à ses côtés se tient le chercheur ou interprète de la loi, c'est-à-dire le grand prêtre. Enfin, il va relire de manière tout à fait intéressante le texte de Amos, car dans Amos, la hutte de David représente Israël, or là, c'est le roi Messie lui-même. On voit donc que même si à Qumran, il y a un Messie prêtre qui est prédominant, ça n'évoque pas tout à fait la place d'un Messie roi davidique. Faut-il identifier ce Messie avec le maître de justice? Je ne pense pas. Sans doute que le maître de justice, qui est l'un des fondateurs de la communauté, a joué un rôle important, mais il n'est pas identifiable au Messie. La ligne est beaucoup plus celle d'un messianisme, on pourrait dire, utopique. Et l'une des figures qui va être privilégiée va être celle de Melchisédek. Pourquoi? Parce que Melchisédek est à la fois un roi et un prêtre. Et là, vous avez un texte splendide que je vais vous lire. C'est le rouleau de Melchisédek. Il est magnifique. Je vais en lire quelques extraits. Concernant ce que dit l'Écriture, ça c'est Qumran. On a inverser l'écriture et on va l'interpréter. Alors, que dit l'écriture? On cite l'écriture. En cette année jubilaire, vous retournerez tous à vos biens. C'est Lévitique 25. Alors, comment interpréter cela? Proclamer le jubilé aux captifs. On va vous dire. Melchisédek, qui leur rendra la possession de ce qui légitimement leur appartient. Il leur annoncera le jubilé, les affranchissant par là de la dette et de tous leurs péchés. Car c'est le temps fixé pour l'année de grâce accordée par Melchisédek, et par sa puissance il jugera les saints de Dieu, établissant ainsi un règne de justice, comme il est dit concernant les chants, les psaumes de David, un être divin a pris place dans le conseil de Dieu, au milieu des êtres célestes il juge. L'Écriture dit encore, au-dessus d'elle va siéger dans les hauteurs des cieux, un être divin jugera les nations. On ne peut pas dire pour autant que Melchisédek ici soit une figure divine ou d'origine divine. Melchisédek ici est interprété à partir des deux lieux où il apparaît dans l'Écriture. Lorsque Abraham revient du combat, Genèse 14, il fait offrande au prêtre roi de Salem qui lui apporte, qui vient à sa rencontre, du pain et du vin. Ou le psaume 110, tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Melchisédek donc ici est un vengeur divin qui est accompagné du messager de loin des esprits et a pour mission de consoler les endeuillés de Sion et de les instruire pour tous les temps de l'éternité. Cette mise en valeur de Melchisédek n'a rien d'étonnant, car je vous le disais, Melchisédek réunit en lui-même la figure du roi et du prêtre. Il n'est pas étonnant que cette figure soit reprise dans l'Évangile, bien sûr. Vous avez vu que la figure de Melchisédek est mise en relation avec le jubilé, qui est la remise des dettes. Et pour parler du jubilé, on va faire un mixte entre le texte de Lévitique 13 et le texte de Isaïe 61, verset 1, qui est proclamé à tous le jubilé. Or, je vous lis ici la prédication inaugurale de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil, c'est-à-dire le jubilé, de part du Seigneur. On voit donc que le thème du jubilé, lié à la libération des captifs et des endeuillés, se retrouve dans l'Écriture évangélique. L'Épître aux Hébreux va faire un autre usage de la figure de Melchisédek en jouant de son nom et de son ascendance. Je vous lis Hébreux 7. C'est à lui qu'Abraham a remis la dette de tout. Pourquoi ? D'abord, il porte un nom qui se traduit « roi de justice ». Et ensuite, il est roi de Salem, il est roi de paix. Lui qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement pour ses jours, ni fin pour sa vie. On voit donc combien à Qumran on va jouer de ces figures ambivalentes, du Messie roi et du Messie prêtre. Je finirai par un messianisme plus populaire et peut-être plus facile à pénétrer pour nous, même s'il a l'inconvénient de n'être connu que par les lettrés. Car vous le savez, le propre du peuple, c'est de ne pas écrire dans une époque où 1% peut-être de la population savait écrire. Et alors, on ne connaît ce messianisme populaire que par des lettrés qui ne leur sont pas toujours très favorables, notamment l'historien juif, l'a vu Joseph, ou quelques allusions dans le Nouveau Testament. Il faudrait parler ici de deux modèles messianiques populaires. D'abord, le modèle royal, qui appartient aux grandes figures du leader juif, qui ne cesse d'être en lutte contre Hérode, puis contre les procurateurs romains. Le premier, vous avez les textes sous les yeux, il s'appelle Judas le Galiléen. Que fait Judas? Lorsque Archélaüs, fils d'Hérode, décide de faire une sorte de recensement de la terre, il se lève et il s'oppose à cela. Le texte nous dit qu'il leur faisait honte de consentir à payer le tribut aux Romains et à supporter après Dieu des maîtres mortels. De fait, selon la Genèse, Dieu donne la terre d'Israël à Abraham et à sa descendance. Au fondement de la promesse, il y a cette affirmation radicale. Eret Israël est la terre du Seigneur, sa propriété, son héritage. Là, j'ai cité Isaïe, Josué et Samuel. En raison du temple où réside la gloire divine, c'est une terre sainte, c'est Zacharie 2 que je cite, qu'il faut sans cesse purifier le livre des Nombres. Dès lors, comment donner la foi à un autre propriétaire qui serait un maître étranger? D'où la révolte de Judas le Galiléen, et vous avez un autre texte aussi de Joseph qui en parle. De manière significative, ce modèle emploie une symbolique différente des psaumes de Salomon. On n'est plus dans le maître de la Torah, on est dans le révolutionnaire, héritage du livre des juges, mais aussi des Maccabées. Dans cette symbolique, Judas le Galiléen renvoie à Judas Maccabée comme l'occupant romain renvoyé au pouvoir des Séleucides. Nous sommes ici dans un messianisme politique et révolutionnaire. La nature polémique du texte de Joseph invite à la prudence. Bien que rien ne transparaisse clairement dans le texte, il est évident que ce mouvement de soulèvement avait des sous-bassements économiques, car le processus d'organisation que Hérode met en place joue un grand rôle sans doute, mais en même temps contribue à un déséquilibre, affrontement entre éléments juifs et non-juifs dans les cités, paupérisation des masses rurales et urbaines, pressurées par de nombreuses taxes. Et il faut payer les choses, bien sûr. Et on trouve l'argent, non, il ne faut pas. Cette situation va se perpétuer longtemps, et y compris sous le gouvernement des Romains. Et là, vous avez donc deux textes que j'ai repris à Joseph, où on a des gens qui sont dans le même, sur le, la même, on pourrait dire, symbolique que Judas le Galiléen, l'un qui est Simon, l'autre qui est Atrangès. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir comment Joseph les présente. Comme Judas, Simon, ancien esclave du roi Hérode, veut répondre à une frustration populaire sous la forme socialement marquée d'un mouvement conduit par un roi, même si Joseph évite soigneusement de le parler ainsi. Mais le plus intéressant, c'est Astrongès. Regardons comment Astrongès est présenté par Simon. Il y eut un certain Astrongès qui n'était remarquable ni par la dignité de ses ancêtres, ni par l'excellence de son caractère ou l'abondance de ses richesses. C'était un berger complètement inconnu de tous, quoiqu'il fût remarquable par sa haute taille corporelle et la force de ses bras. C'est remarquable. On ne peut pas être plus tartuffe que Flavius Joseph ici. On le présente comme un pauvre bougre, mais il est berger. Et donc, quelque part par là, il reprend l'image de David, le berger. Et la haute taille est un attribut des rois. Regardez par exemple que Saül, on vous dit que Saül dépassait tout le monde de la tête et des épaules. Quant à David, il était remarquable par sa beauté. Donc quelque part, Joseph vous laisse bien entendre que cet homme-là, il revendique d'être l'héritier de David, mais il annule cela en disant que c'était un homme qui n'avait aucune excellence de caractère, qui n'avait pas de fric, donc il n'était pas intéressant. Les continuateurs de ces messies populaires du 1er siècle, qui luttent contre le pouvoir oppressant d'Hérode puis des Romains, seront bien sûr Simon Bar Yoha, lors de la première grande révolte juive en 66-70, et plus encore le chef de la seconde révolte juive de 132-135. Les documents trouvés dans le désert de Juda donnent le nom de ce dernier, c'est Bar Koziba. Or, s'appuyant sur l'oracle de Balaam, l'astre qui se lève dans Juda, Rabbi Akiva faisait cette exégèse. Une étoile est issue de Jacob, Bar Korba, qui veut dire fils de l'étoile, est issu de Jacob. Et il disait, celui-ci est le Messie. Mais les adversaires de Bar Korba l'appellent plutôt Bar Koziba, le fils du mensonge. Et un rabbi contemporain de Akiva, avec prudence, dit à Akiva, « Akiva, l'herbe te poussera d'entre les mâchoires et le Messie ne sera pas encore venu. » On a ça dans le Talmud de Jérusalem, traité Tahanit. Fait notable, la tradition juive n'a pas retenu comme grief à Akiva de s'être trompé. On pourrait dire aussi que Jésus, d'une certaine manière, a pu être perçu dans ce messianisme populaire révolutionnaire. Du moins dans une certaine tradition juive, en témoigne cette Baraïta qui a été recueillie dans le Talmud de Babylone, au traité Sanhédrin, où on dit que, je cite, « Jésus fut pendu parce qu'il avait exercé la magie, séduit Israël et l'avait entraîné dans la rébellion. » De fait, certains actes de Jésus, comme l'entrée triomphale à Jérusalem, vont dans le sens de cette revendication davidique et royale. Mais d'autres, au contraire, vont dans un tout autre sens. Je pense ici à la multiplication des pains dans Saint Jean, où on vous dit que Jésus s'enfuit quand il apprend qu'on voulait le faire roi. On voit donc que, quelque part, le messianisme de Jésus n'est pas tout à fait loin aussi de ce messianisme-là, même s'il n'est certainement pas premier dans sa pensée. Le deuxième messianisme populaire, sur lequel je finis, il est prophétique. Là, on ne se revendique pas les héritiers des Maccabées ou des juges, mais plutôt on va dans la ligne des prophètes. Notamment Malachie, chapitre 3, versets 24 et 25, qui prévoit le retour de Élie, qui fera revenir le cœur des fils vers les pères et les pères vers les fils. On peut raccrocher à ce messianisme, et là je vous donne ces deux textes, la figure de Jean le Baptiste. Dans un texte tout à fait intéressant que vous allez avoir sous les yeux, on va voir comment Flavius Josèphe nous parle de Jean le Baptiste. C'est d'autant plus intéressant ce texte, avant de vous le lire, je commence, c'est que le contexte dans lequel s'inscrit ce texte n'est pas du tout un contexte messianisant. Joseph est en train de décrire une défaite qu'a connue le roi Hérode le Grand. Il était vaincu par le roi Arétascape. Arétascape, sa capitale, vous la connaissez, c'est Pétra. Arétascape est le roi des Nabatéens. Il a vaincu Joseph, il a vaincu Hérode. Pourquoi fait-il la guerre à Hérode? Parce que Hérode était marié avec la fille d'Arétas, mais il a répudié pour épouser Hérodiade. Ça fait une guerre, le beau Perse, contre le gendre, bien sûr. Et donc, Joseph a expliqué cette défaite de Hérode ainsi. Je vous lis le texte de Joseph qui est tout à fait intéressant. Quand je m'ai agi, c'est antiquité judaïque, bien sûr. Et Bévis, c'est guerre juive. Certains juifs furent d'avis que l'armée d'Hérode avait succombé de par Dieu, qui, c'était là une explication fort justifiée, vengeait ainsi Jean, surnommé Baptiste. Celui-ci était en effet un homme de bien, qu'Hérode avait fait mettre à mort. Il exhortait les Juifs à pratiquer la vertu, à agir avec justice les uns envers les autres, et avec piété envers Dieu. pour être unis par un baptême. Car c'était assurément ainsi que le baptême s'avérerait agréable à Dieu s'il servait non pour se faire absoudre de certaines fautes, mais pour purifier le corps après que l'âme eût été préalablement purifiée par la justice. Comme les autres juifs se rassemblaient, car ils étaient exaltés au plus haut point en écoutant les paroles de Jean, Hérode craignit qu'une telle force de persuasion n'incitât à une révolte. Chacun semblait prêt à faire n'importe quoi sur les conseils de cet homme. Il estima préférable de prendre les devants et de le supprimer avant que quelques troubles surgissent du fait de Jean, plutôt que de se retrouver lui-même dans l'embarras si un bouleversement se produisait et d'avoir ainsi à le regretter. Victime des soupçons d'Hérode, Jean fut envoyé prisonnier à la forteresse de Macéronte et il finit sa mort. Les Juifs furent d'avis que c'était pour le venger que l'armée avait été condamné à la destruction, Dieu avait voulu frapper Hérode. Texte remarquable, car vous voyez, il n'y a absolument aucune incidence chrétienne dans ce texte. C'est la vision objectivée d'un historien, Flavius Joseph, mais qui donne des éléments intéressants sur le baptiste. D'une certaine manière, bien sûr, ce modèle prophétique correspond bien aussi à Jésus, tel que Joseph nous le présente dans un texte fameux de ces mêmes antiquités, l'entend contester comme étant une interpolation chrétienne dans l'œuvre de Joseph. Ce testimonium est aujourd'hui de plus en plus reconnu comme authentique, pourvu qu'on l'émonde d'interpolation vraisemblable introduite dans le texte par des mains chrétiennes. Et donc, on peut restituer ainsi le texte de Joseph. On peut le faire d'autant plus que le texte que je vous donne et qui n'a aucune connotation chrétienne, se retrouve dans une traduction arabe de Joseph, faite par un évêque syrien Agapios au Xe siècle, et qui semble conserver le texte authentique de Joseph, le voici. À cette époque survint Jésus, un homme sage, car c'était un faiseur d'œuvres prodigieuses, maître des gens qui reçoivent les vérités avec plaisir. Il se gagna beaucoup de juifs et beaucoup qui étaient d'origine grecque. Lorsque, sur la dénonciation de nos notables, Pilate lui condamnait à la croix, ceux qui l'avaient aimé au début ne cessèrent pas de le faire. Et aujourd'hui encore, le clan des chrétiens, nommé ainsi à cause de lui, n'a pas disparu. Et nous sommes dans un texte qui est parfaitement juif, et en même temps, il est intéressant de voir ce que Joseph nous dit de Jésus, c'est l'unique texte contemporain de l'époque de Jésus, à part les évangiles. Il y a d'autres textes ou d'autres figures moins connues qui ressortissent dans cette vision splendide. Je vous en prends ici trois dans Joseph. Le premier, c'est un homme, un samaritain, qui conduit le peuple des samaritains sur le mont Garizim pour y retrouver les ustensiles du temple que Moïse aurait enfui, aurait caché là, avant que le temple soit détruit par les Babyloniens. On connaît aussi cette légende à travers les paralipomènes de Jérémie. Mais disons le début qui est tout à fait intéressant. Ça se passe du temps de Ponce Pilate en 36 et ça vaudra d'ailleurs, ce massacre des Samaritains, vaudra à Pilate d'être exilé en Gaule à Saint-Bertrand de Comminges. Le peuple des Samaritains ne fut pas à l'abri des troubles. Ils furent ralliés en effet par un homme à qui peu importait de mentir, ça c'est Joseph, et qui combinait tout pour faire plaisir à la foule, un démagogue. L'homme les exhorta très vivement à gravir avec lui le mont Garizim, qui passe à leurs yeux pour la plus sainte des montagnes. Il affirmait énergiquement qu'il montrerait à ceux qui étaient parvenus là les vases sacrés enfuis à cet endroit, car c'était là que Moïse les avait déposés. Vous lirez la suite, et bien sûr, un sanglant massacre. L'autre figure est intéressante, c'est Pédas. Ce Pédas dont parle Gamaliel dans les Actes des Apôtres. De nos jours, on a vu se lever Pédas et on a vu ce qui est arrivé. Si cette affaire est de Dieu, ça restera, autrement ça disparaîtra. Or, voici comment Pédas est présenté par Joseph. Nous sommes à l'époque de Fabius, c'est-à-dire en 44, et un imposteur nommé Thaddeus se lève. Alors, qu'est-ce que prétend Pédas? Il affirmait être le prophète et disait qu'à son commandement, les eaux du fleuve se fendraient et leur ouvriraient le passage facile. Il prétend être le prophète comme Moïse qui va renouveler les miracles de l'Exode. Il reprend l'exemple de Moïse avec la geste libératrice de l'Exode, l'entrée en terre promise par le miracle du fleuve. Il n'est pas ici présenté comme un roi, mais comme prophète. Il répond à l'attente de Deutéronome 18, 18. D'après ce texte, le renouvellement des événements de l'Exode est donc le prélude des temps messianiques. Autre figure qui est dans le même niveau, c'est un Égyptien. Vers cette époque, nous sommes à l'époque d'un autre gouverneur, c'est Félix, nous sommes entre 52 et 60. Vers cette époque, arriva à Jérusalem un homme venant d'Égypte, qui affirmait être le prophète et conseillait à la populace de gravir avec lui le mont dit des Oliviers, lequel se trouve en face de la ville, à 5 stades de distance. Il voulait en effet, déclarait-il, leur donner à voir de là-haut comment les remparts de Jérusalem s'écrouleraient sur son ordre, et il leur promettait de leur fournir ainsi accès à la cité. Cet épisode singulier de Félix est tout à fait intéressant, mais il éclaire aussi certaines scènes évangéliques, comme la lamentation de Jésus sur Jérusalem, qui depuis les monts des Oliviers déclare qu'il ne restera pas pierre sur pierre, parce que la ville n'a pas connu le temps de la visite. Luc 19. Ou l'accusation devant le Sanhédrin de détruire le temple et d'en bâtir un autre. Mais aussi cet Égyptien apparaît dans le texte de Actes 21, où quand Paul est arrêté dans le temple, on lui dit « Tu sais le grec, tu n'es donc pas l'Égyptien qui ces derniers temps a soulevé 4000 bandits et les a entraînés au désert. » Donc ce regard sur les espérances juives au 1er siècle montre que ces espérances sont très marginales, mais aussi qu'elles sont complexes et multiples. On a la vision du prêtre, Messie, à Qumran, la vision pharisienne du Messie, fils de David, mais on a aussi, dans le monde populaire, la vision du prophète ou la vision du révolutionnaire. La source commune à toutes ces visions, c'est une lecture midrashique de l'Écriture et des grands événements de l'histoire du salut. Les temps messianiques ne seront que l'amplification, ou plutôt l'accomplissement de l'histoire d'alliance commencée entre Dieu et Israël, avec la purification du temple, avec celle des saints du Très-Haut. Nous sommes dans l'accomplissement où la réforme de Josias conduit ici son plus bel accomplissement. Je finis par un texte que j'aime beaucoup, c'est l'Apocalypse messianique de Qumran. Vous l'avez sous les yeux, et vous allez comprendre pourquoi ce texte est très intéressant. Je le lis à partir du verset 4. « N'est-ce point là que vous trouverez le Seigneur, tous ayant l'espoir au cœur? Car le Seigneur examinera les pieux, il appellera les justes par leur nom. Il fera planer son esprit sur les humbles. Il transformera les fidèles par sa puissance. Car il honorera les pieux sur son trône éternel, libérant les captifs, ouvrant les yeux des aveugles, connaissant ceux qui ont été courbés. À jamais je m'attacherai à ceux qui espèrent et dans sa miséricorde, il les rétribuera, et le fruit d'une bonne œuvre ne sera différé pour personne. Le Seigneur accomplira, comme il l'a dit, des actes glorieux qui n'ont jamais eu lieu. Il guérira les aveugles, les blessés, il fera revivre les morts, il annoncera la bonne nouvelle aux humbles, il rassasiera les indigents, il guidera les déportés, il comblera les affamés. » Ce texte qumranien est un texte magnifique qui reprend des éléments de 3 textes de Isaïe, Isaïe 35, versets 5 et 6, Isaïe 58, verset 6, et Isaïe 61, versets 1 et 2. Mais un tel collage ne se retrouve qu'une seule fois dans la littérature de cette époque, c'est dans l'évangile de Matthieu et de Luc, je vous lis ceci. Aux envoyés de Jean venus le trouver, que dit Jésus? Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. La teneur eschatologique de ce texte de Matthieu, comme du texte de Qumran, ne fait aucun doute. À la lumière de l'évolution des figures messianiques que j'ai tenté d'esquisser, il est tentant de lire dans un tel passage un essai pour identifier Jean avec le prophète eschatologique et Jésus avec le Fils de l'homme. Si la nouveauté du modèle messianique réalisé par Jésus n'en demeure pas moins réelle, du moins pour les chrétiens, un tel arrière-fond juif ne saurait être oublié sous peine de couper Jésus de toute racine humaine. On est fini. Je suis conscient que les textes que j'ai lus ne sont pas toujours très simples. J'espère que je vous les ai éclairés. Et c'est des textes qui sont magnifiques, mais peu connus.
Je vous remercie beaucoup pour cet exposé. Et je veux dire, là, je ne sais pas quoi dire, parce que c'est vraiment, vraiment très fort. C'est un niveau culturel, c'est des découvertes de textes. Vous nous en aviez un peu parlé tout à l'heure, en intimité avec Jean-Marc, mais là c'est vraiment comment il faudrait qu'on ait le temps de se poser, de réfléchir, dans la mesure où j'espère qu'on va avoir des questions pour pas éclaircir parce que c'est clair, dans la mesure où on comprend ces diversités et la venue et la montée du Messie, peut-être pour le monde chrétien, mais pour le monde juif c'est loin d'être évident, puisque nous, on l'attend toujours. Alors, qui veut poser des questions? Si, allez-y.
Oui, je voudrais savoir si on... Enfin, quelle a été... s'il y a encore une évolution du concept du Messie donc dans la pensée religieuse juive.
Alors, je me suis cantonné exprès dans une fourchette qui était, disons, les textes du IIIe siècle avant l'ère chrétienne et la fin du Ier siècle de notre ère. Alors, il est évident, me semble-t-il, je le disais au début, c'est que le messianisme est beaucoup plus fort en christianisme aujourd'hui qu'en judaïsme pour des raisons que je crois évidentes et qui tiennent à l'histoire. Vous l'avez vu, je l'ai cité avec Bar Korba, avec Bar Yora d'abord et Bar Korba. Ces messies révolutionnaires, en lutte contre Hérode et le pouvoir romain, ont conduit deux fois Israël au bord de la catastrophe. Prise de Jérusalem en 70 sous Titus, destruction de Jérusalem complète par Adrien en 135, et où même la ville devient Aedia Capitolina, elle change de nom, et je dirais que même plus que ça, on va interdire l'accès d'Israël même aux Juifs, du moins dans un premier temps. Et donc on comprend très bien que les rabbins, à partir de la moitié du IIe siècle, vont faire un retrait par rapport au messianisme. On l'a vu très bien avec cette phrase de ce rabbin qui dit à Akiva, tu sais, l'air te poussera entre les mâchoires avant que tu ne vois venir le Messie. Quelque part, il y avait de la survie du judaïsme. C'est-à-dire que quelque part, si effectivement le judaïsme devait survivre, il ne pouvait survivre que concentré sur la Torah. Et pas partir, je pense, dans des élucubrations messianiques, comme c'était le cas avec ces messies dont j'ai parlé dans les années populaires, les tenaces et apprendre les comptes, etc. Et donc, quelque part, on voit bien comment les rabbins vont quelque part dire « arrêtons les frais » et il y aura une certaine méfiance. Alors, va se développer quand même dans le judaïsme une double conception du messianisme qui reste encore aujourd'hui, même si elle est quand même très minoritaire, car le sens du judaïsme, c'est la Torah, la parole. Ça va être le Messie davidique qui reste une espérance. Mais c'est aussi une figure souffrante qui sera le Messie fils de Joseph. Je parle ici bien sûr de Joseph, le patriarche de la Genèse. qui sera une figure souffrante, et quelque part, on va relire les oracles du second Isaïe, tel Isaïe 53, comme étant l'image souffrante d'un peuple persécuté, emporté par les drames de l'histoire, et donc quelque part, le judaïsme va faire du messianisme quelque chose d'assez marginal, mais qui reste dans son utopie. Et les rabbins vont tout concentrer sur l'étude de la Torah, ce qui donnera la Mishnah à la fin du second siècle, puis la Gemara, la Tosefta, et le Talmud, bien sûr, les deux Talmud, Babylone et Jérusalem. Mais j'ai envie de dire, si le messianisme n'a pas été très développé par le judaïsme, ça a été d'abord pour des raisons historiques au départ. Pensez aussi au XVIIe siècle avec sa bataille d'Zita et comment il y a ici un mouvement déçu. Et donc, quelque part, je pense que le pragmatisme l'a emporté sur l'utopie. Pour le christianisme, c'était un petit peu différent. Parce que le premier siècle, on voit très bien, Jésus est d'abord perçu à travers une double figure, celle du Messie et celle du Fils de l'homme. Quand on va de plus en plus affirmer qu'il est Fils de Dieu, au sens transcendant du terme, j'ai envie de dire, on n'a plus besoin du messianisme. On a autre chose. On a une autre figure complète. Et donc, j'ai envie de dire, quelque part, voilà, c'est arrivé, il n'y a plus rien à attendre. Et en même temps, ça désarme quelque chose. Puisqu'il est là, ça désarme. On va très très bien que quelque part, je crois que des raisons autant que religieuses, politiques, ont joué. Vous savez, il faut avoir les pieds sur terre et penser que la plus haute spiritualité, elle se heurte au pragmatisme des faits. Voilà. C'est comme ça que je comprends. Peut-être que là, je suis trop réducteur. Je pense que c'est pour ça que le christianisme n'a pas eu une très très grande... Il y a eu d'autres choses qui vont prendre beaucoup d'importance, comme l'étude de la Torah, comme des courants mystiques, après la Kabbale, etc. Mais c'est pas très central. D'autant que quand vous regardez les textes de la Bible, elle-même hébraïque, on s'aperçoit, notamment chez Ézéchiel, c'est que le Messie, il n'a pas grand-chose à faire. C'est Dieu qui fait tout, puis le Messie, il vient par-dessus. Voilà. Donc oui, c'est une espérance, une utopie. Mais une utopie, mais surtout pas un moteur politique, au moins dans la pensée religieuse. Alors après, il y aura des mouvements messianiques, beaucoup plus politiques dans l'histoire juive, mais souvent ils seront marginaux. Ce ne sera pas la grande tradition. Je ne connais pas tout, et n'hésitez surtout pas à répondre vous aussi, hein, ou à apporter des compléments.
Peut-être le fait que ce soit vous, en tant que professeur, vous nous appreniez et nous découvrons. Et puis il y a le courant de la vie. Et les mouvements des communautés, là je parle pour le judaïsme. Et est-ce qu'il y a toujours, et oui, il y a cette attente du Messie, mais c'est souvent, oui, et c'est souvent dans la catastrophe, d'où les mouvements de racidisme, la Kabbale, tout ce qui est venu pour adoucir la vie. Mais est-ce que là, aujourd'hui, dans l'étude de la Torah, est-ce qui est vrai, c'est vraiment l'étude de la Torah, mais pour dans quel but ? Améliorer la façon de se conduire, améliorer l'homme. Est-ce que c'est pas par cette amélioration, aussi par la justice, comme je disais tout à l'heure, ou par d'autres qualités, oui, que le Messie arrivera, et non pas par la guerre ou par les peurs. Alors là, on est dans une réflexion plus simple, hein, bien sûr, de l'humain.
Merci. Moi, j'ai regardé un petit peu ce que disent les maîtres juifs, et notamment le grand rabbin Gilles Bernheim. Donc, c'est vrai qu'il faut distinguer la figure du Messie, qui est rarement évoquée, finalement. On parle du messianisme, on en parle beaucoup, du messianisme, même si ce n'est pas central. Ce qui est central, c'est l'étude de la Torah, effectivement, mais on parle aussi du messianisme, et des gens comme Gilles Bernheim, mais je vais parler aussi du Rabbi de Gour, parlent du messianisme. Et Gilles Bernheim dit, en fait, le messianisme n'est pas conçu comme l'attente d'une apothéose qui se produirait au terme d'un temps linéaire et continu, mais comme une possibilité qui est donnée à chaque moment du temps de l'avènement du nouveau. Donc, une manière de... Il faut se tenir prêt. Moi, on ne dit pas ça va arriver comme ça. Et il dit, pour les Juifs, et là, en fait, il reprend une parole de Walter Benjamin, ou Walter Benjamin, suivant les prononciations, pour les Juifs, chaque seconde devient alors la porte étroite par laquelle peut entrer le Messie. Voilà. Et puis, le rabbi de Gour, lui, s'attache à méditer la dimension messianique de chaque personne qui veut penser sa vie en alliance avec la ligne de liberté dessinée par l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et moi, ça m'a semblé intéressant. Et il y en a un autre qui dit, là, David Bannon, qui va clôturer en l'occurrence la session de cette année, qui dit, en fait, l'hébreu est messianique. Donc c'est pas la figure de Messie, mais l'hébreu lui-même est messianique. C'est une manière d'être, c'est ce que tu disais là à l'instant, c'est une manière d'être de chaque homme dans son inscription dans le temps, dans le projet divin. Et ça me semble très intéressant.
D'une certaine manière, c'est présent dans la Torah elle-même, puisque bon, il y a un texte que je trouve magnifique, je vous le cite parce que je l'ai évoqué, mais pour moi c'est un des plus beaux textes sur le pouvoir, c'est Deutéronome 17. C'est un texte que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je trouve que nos hommes politiques pourraient le lire de temps en temps. Je vous le lis, c'est un des plus beaux textes qui soit. C'est Deutéronome 17, 20, 14 à 20, qui est ce qu'on appelle la loi du roi. Quand tu seras entré dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne, et que tu le posséderas, et que tu habiteras, quand tu diras, je mettrai sur moi un roi, comme toutes les nations qui sont autour de moi, tu mettras certainement sur toi un roi, choisi par le Seigneur ton Dieu, du milieu de tes frères, tu mettras sur toi un roi. Tu ne pourras pas te donner un homme étranger qui n'est pas ton frère. Seulement, il ne multipliera pas pour lui les chevaux. Il ne fera pas retourner le peuple en Égypte de sorte à multiplier le cheval, puisque le Seigneur vous a dit, vous ne continuerez plus encore à retourner par ce chemin-là. Il ne multipliera pas pour lui les femmes, il ne détournera pas son cœur, et ne détournera pas son cœur, et de l'argent et de l'or, il n'en aura pas beaucoup. Par contre, il siégera, quand il siégera sur le trône de sa royauté, il écrira pour lui un double de cette Torah sur un livre devant les prêtres lévites. Elle sera pour lui, et il la lira tous les jours de sa vie, de sorte qu'il apprenne la crainte du Seigneur, à garder les paroles de la Torah et ses prescriptions pour les pratiquer, pour ne pas élever son cœur au-dessus de ses frères, et ne pas dévier du commandement à droite et à gauche, de sorte qu'il allonge les jours sur sa royauté, lui et les fils au milieu d'Israël. Alors, ce texte est magnifique, car c'est l'antiportrait de Salomon. C'est l'antiportrait de Salomon. Salomon, c'est celui qui possède les chevaux en abondance, qui épouse la fille de Pharaon, et donc qui retourne vers l'Égypte. On dit que de son temps, la pierre était, l'argent et l'or étaient plus communs que les pierres, enfin, que l'or et l'argent étaient plus communs que les pierres, et qu'il y eut 1000 femmes, 700 femmes et 300 concubines. Vous voyez donc que le Messie ici, c'est l'anti-roi sage, c'est l'anti-Salomon, mais c'est celui qui, en écrivant de sa propre main la Torah, pratique la Torah, c'est-à-dire c'est le juif, c'est l'homme. Et je pense que ce texte de Deutéronome 17, qui est sous-jacent, on l'a vu, à tant de textes que j'ai lus, des psaumes de Salomon, montre bien que quelque part, je pense, dans le messianisme, mais j'ai envie de dire aussi dans le christianisme, le messianisme, c'est plus un état qu'un homme. C'est une manière d'être devant Dieu. Et on comprend bien pourquoi le judaïsme ne va peut-être pas s'attacher à une figure, puisque le judaïsme a ce sens très communautaire et collectif. Et donc, tout homme en Israël est roi. Mais on le voit bien que c'est ces textes-là qui sont à l'origine de l'évolution du messianisme, et je crois qu'ils sont excellents, parce que c'est un roi sans puissance. Et dans un texte magnifique également de Zacharie, que vous connaissez bien aussi, j'ai un peu honte de dire comme ça, parce que je sais que vous les connaissez aussi bien que moi, c'est Zacharie 9, c'est le Messie montera sur l'anneau le petit Jeunesse. C'est un roi sans pouvoir. Quand on sait que la puissance, c'est le cheval dans l'Orient ancien, c'est pas l'âme. Or l'âme, c'est l'image du roi tel que le veut Israël, et c'est pas pour rien Chagall, mais tout le temps des âmes dans ses tableaux. Et pas des chevaux, mais des âmes.
En vous remerciant pour ce remarquable exposé, moi je ne suis qu'une très novice, mais je voulais vous poser une question qui m'intrigue toujours. Vous avez cité les Samaritains, Samarie, bien le mont Garizim, et il y a une vingtaine d'années, j'étais au pied du mont Garizim avec mon mari, et nous avons été accueillis, attendus par un certain nombre de ces Samaritains, pourrait-on dire contestataires. Il y en a presque un millier, il n'y en avait plus qu'un millier à peu près à l'époque, et alors ils voulaient nous convaincre qu'Israël était dans l'erreur, et vraiment ils faisaient du prosélytisme encore. Il y en a-t-il encore sur le mont Garizim? Ils sont très peu nombreux, je sais. Ils vont diminuant.
Oui, ça existe encore.
Mais quel est leur véritable... En vous disant également que j'ai beaucoup apprécié, lorsque je participe aux cérémonies de Pessah, la coupe que l'on met pour le prophète Élie qui doit venir annoncer le Messie. Ça, c'est aussi quelque chose de très symbolique.
La
porte en couvert, oui.
Le Messie, pour eux, c'est le Tareb et une figure à venir aussi. Alors, c'est très compliqué, le problème des Samaritains, parce que, d'abord, c'est un problème historique complexe. À lire le texte de 2 Rois 17, tel que vous l'avez aujourd'hui, on a l'impression que les Samaritains, ce sont des moitiés juifs et moitiés étrangers. Puisqu'on vous dit que les rois d'Assyrie ont déporté une population importante, bon. Mais quand on fait une critique historique de ce texte, on s'aperçoit qu'il est écrit tardivement, qu'il est écrit par des judéens et qu'il est polémique. Et donc, en fait, historiquement, je dirais, là je parle comme professeur d'histoire d'Israël, je ne fais pas un crédit extraordinaire sur l'historicité de ce texte. On voit donc que depuis le départ, il y a une controverse entre Israélites et Samaritains. Pour moi, je pense que les Samaritains sont en fait les descendants de l'ancien royaume d'Israël. Mais je le crois, c'est historiquement, je vois pas comment on peut dire autre chose. C'est, contrairement à ce que l'on pense, la rupture judaïsme entre les Juifs et les Samaritains est assez tardive. En fait, elle survient vraiment à la fin du IIe siècle, du temps de Jean Hyrcan, quand Jean Hyrcan, en 128, va détruire le temple du Garizim, et en 108, il va détruire Samarie, et il va essayer de convertir de force les Samaritains. Mais on voit bien que les Samaritains, au départ, étaient une secte du judaïsme, au sens, puisqu'ils ont le même Pentateuque. Le Pentateuque samaritain est très proche du Pentateuque hébreu, parfois avec quelques différences, on a Garizim au lieu de Ebal dans l'un ou dans l'autre. Mais là, c'est des petites variantes, mais c'est assez proche. Donc, quelque part, il y a un fond commun entre Samaritains. Simplement, les Samaritains n'ont que la Torah. Ils sont plus proches de ce que furent les Sadducéens que de ce que furent les pharisiens. Le judaïsme tel que nous le connaissons aujourd'hui, il est l'héritier du pharisaïsme. Les autres tendances, c'est-à-dire les Esséniens, les Sadducéens, ont disparu. Donc, c'est vraiment... Il se refonde avec Yohanan ben Zakkai et la mouvance pharisienne. Ce qui fait que c'est très compliqué le rapport parce qu'il est à la fois idéologique, polémique, et comme dans la fin des temps, je crois qu'on ne pourra jamais s'entendre entre juifs et un samaritain. Pourtant, ils ne sont plus sous cousin germain. Ils ont la même Torah. Hein, ils ont... Et vous savez que les samaritains sont les seuls qui ont gardé la structure sacerdotale, puisqu'ils ont un grand prêtre. Ils pratiquent encore la Pâque telle qu'on la faisait du temps de Josias, c'est-à-dire que c'est non une fête nationale et non pas uniquement familiale. Et il y a des lévites, et il y a le grand prêtre, et on verra, le grand prêtre samaritain, c'est le plus vieux de la communauté. C'est le plus vieux de la communauté, les grands prêtres. Maintenant, c'est des dialogues de sourds. Parce qu'ils vous diront que les autres sont hérétiques, et on se lance dans la tête de part et d'autre. C'est pas évident. Mais je trouve que c'est très intéressant, le phénomène samaritain. C'est une perdurance dans l'histoire de quelque chose qui est tout petit. Je crois qu'il y aurait autour de 800, peut-être 600. Ils sont autour de Naplouse. Hein, ils sont autour de Naplouse, du Mont Garizim. Ils sont très... Oui, c'est très, très particulier, les Samaritains. Alors, ils n'ont pas du tout connu l'évolution, par exemple, du rabbinisme. Donc, c'est ce qui les différencie beaucoup. Ils en sont restés encore à la lettre de la Torah. Ce sont des fondamentalistes, on dirait, de la lettre de la Torah. Il n'y a pas chez eux le Talmud, la grande tradition rabbinique, ça c'est clair. C'est clair. Mais on oublie aussi que le judaïsme a connu aussi ces fondamentalistes de la Torah, du texte qui étaient les Karaïtes. Le Karaïte était un mouvement qui, autour, je crois, du 5e, 6e siècle, s'est opposé, on les appelle quelquefois les protestants du judaïsme, les Karaïtes. Ils sont opposés aux rabbins pour revenir à la sola scriptura. Or, ce qui est remarquable, c'est que nous avons le texte massorétique à cause des Karaïtes, car toute notre Bible repose sur deux manuscrits, manuscrit de Leningrad, manuscrit de Alep, qui ont été écrits dans des familles Karaïtes. Vous avez une thèse sur les Karaïtes qui a été faite par André Paul il y a quelques années. C'est un phénomène tout à fait intéressant, les Karaïtes, que c'est vraiment... Alors, c'est vraiment exactement le même mouvement que le protestant par rapport à Catholicisme, un retour à la lettre du texte, en disant on laisse tomber ce qui est autour et qui est superflu. Très intéressant, les Karaïtes.
Je souhaiterais préciser quand même que dans la tradition de la synagogue, le 8e jour de Pâques, de Pessah, il y a quand même beaucoup de juifs dans les synagogues. Et ce jour-là, après la lecture de la paracha, de la fête, il y a la traditionnelle lecture de l'extrait des prophètes. Donc ce 8e jour, il est quand même récité d'une manière beaucoup plus non habituelle. On donne donc une importance particulière à cette récitation d'Isaïe, chapitre 11, si vous permettez. C'est très court, je vais rappeler ce qui est dit. Et dans certaines communautés, ce jour-là, on se donne la peine de traduire dans le langage courant. Parce que, bien sûr, beaucoup de juifs qui fréquentent la synagogue ne comprennent pas l'hébreu qu'ils récitent. Donc, on en arrive à donner la traduction dans le langage du pays où l'on réside. Donc, c'est le chapitre 11. Or, un rameau sortira. C'est pour répondre à la question de monsieur. Or, un rameau sortira de la souche de Yishai, traduction Jessé. Un rejeton poussera de ses racines, et sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte de Dieu. Animé ainsi de la crainte de Dieu, il ne jugera point selon ce que ses yeux croiront voir, il ne décidera pas selon ce que ses oreilles auront entendu, mais il jugera les faibles avec justice. Il rendra les arrêts équitables en faveur des humbles du pays. Du sceptre de sa parole, il frappera les violents. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins et la loyauté, l'écharpe de ses flancs. Alors, le loup habitera avec la brebis et le tigre reposera avec le chevreau. Veaux, lionceaux et béliers vivront ensemble et un jeune enfant les conduira. Génisse et ours pèteront côte à côte, ensemble se battront leurs petits et le lion comme le bœuf se nourrira de paille. Le nourrisson jouera près du nid de la vipère et le nouveau sevré avancera la main dans le repère de l'aspic. Plus de méfaits, plus de violence sur toute ma sainte montagne, car la terre sera pleine de la connaissance de Dieu, comme l'eau abonde au fond des mers. Je tenais à dire cela parce que c'est toutes les années. Et dans la tradition, on répète cela chaque année au 8e jour de Pessah.
Bien sûr, oui. Et vous avez une magnifique tapisserie de Chagall sur justement ce texte de Isaïe, avec notamment le thème de l'enfant qui joue sur l'île du cobra et qui est une inversion du texte de la Genèse, que l'on retrouve d'ailleurs dans le talent des vies, où il y a le combat entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. Là, on a une inversion du thème de la Genèse. Et que l'on retrouve d'ailleurs dans l'Évangile lorsqu'on dit que Jésus était dans le désert avec les bêtes sauvages. C'est-à-dire, c'est une référence implicite à Isaïe. C'est un des grands textes, Isaïe 11, 1 à 9, le messianisme, c'est sûr. C'est sûr.
C'est important parce que on ne va pas comprendre. Donc si on ne comprend pas la question, on a du mal à comprendre la question.
Si j'ai bien compris, plus que de messie ou de messianisme, on pourrait parler de temps messianique. Et je me demandais s'il était possible de faire un parallèle dans le christianisme avec ce que l'on pourrait appeler les temps eschatologiques. Est-ce qu'il est possible de mettre ces deux temps ou ces deux périodes en parallèle ? Les temps messianiques et les temps eschatologiques, est-ce que quelque chose à voir là-dedans ?
Oui et non, j'allais dire, il faut. Je crois qu'effectivement, pour beaucoup de ces textes messianiques, nous parlent de la fin des temps. Mais nous avons aussi dans la tradition juive certains textes qui vont dissocier la fin des temps du Messie. Je pense à une apocalypse juive, alors qui est tout à fait intéressante parce qu'elle est contemporaine de la deuxième chute de Jérusalem en 135. Et donc, mais je n'ai pas voulu encore rajouter, c'est ce qu'on appelle l'apocalypse de Baruch. On connaît le texte en grec. Et dans l'Apocalypse de Baruch, au chapitre 29 et 30, on a ce scénario tout à fait extraordinaire. Arrive au terme de tribulation, Dieu a caché... Il y a d'abord l'idée que le Messie, il est pré-créé. Avant même la création, le Messie a été créé et il est tenu en réserve dans le ciel. Donc, après un temps de tribulation... Et là, Baruch étant le serviteur de Jérusalem, de Josué, de Jérémie. Sinon, c'est la fin, la fatigue s'y fait. Donc, quelque part, on va calquer la chute de Jérusalem sur la chute en 787, sur la chute de 135. Donc, on voit le Messie qui a été tenu en réserve, qui apparaît sur terre, qui fait son travail, qui meurt. Et après sa mort, Dieu fait venir les derniers temps. Mais le Messie meurt, il n'est pas là. Il meurt c'est pas comme l'anglais, il ne meurt pas crucifié sur la croix. Il meurt de sa belle mort, il a fait son temps sur terre, il disparaît, et c'est après
qu'il est disparu, que Dieu va amener la fin des temps. Là, il y a une dissociation entre l'ère messianique et la fin des temps. Le monde futur, absolument. Parce que quelque part, nous sommes dans la logique de ce messianisme sans messie, des psaumes du règne, qui rappellent que Dieu règne. Et donc, de même que chez Ézéchiel, vous le savez, le rejeton davidique, il est prince, il n'est plus roi. Et dans ce qu'on appelle la Torah d'Ézéchiel, c'est-à-dire Ézéchiel 40 à 48, on parle du prêtre et on parle du nasi, du prince, mais pas du roi. Parce que la royauté, c'est celle de Dieu. Et je pense que quelque part, en dissociant fortement le temps du Messie, de l'avènement du règne de Dieu, dans certains textes juifs, on insiste sur cette transcendance divine. Ça, il ne faudrait pas calquer trop les choses ou dire. Ce qui est compliqué dans les textes apocalyptiques que j'ai lus, c'est que vous voyez qu'il y a de multiples représentations. On n'est pas dans du normalisé. On comprend pourquoi après on a normalisé les choses. On est dans de multiples courants. Mais c'est exactement comme étaient les évangiles. On connaît les quatre évangiles canoniques, mais il y a des tas d'autres évangiles qui ne sont pas canoniques, mais qui disent des choses un peu différentes et qui ont été rejetés ou oubliés. Il y a une diversité extraordinaire du judaïsme au premier siècle, comme il y a des judaïsmes, comme il y a des christianismes, et il revient au travail extraordinaire de Yonachanan ben Zakkai d'avoir unifié cela à Yavne à partir de 90, parce qu'il en allait de l'existence même du judaïsme, qui risquait d'être emporté par l'histoire, avec la révolte contre les Romains. Et donc le travail de Yonachanan ben Zakkai a été de réunifier les choses, et c'est vrai qu'il l'a fait de manière sage et prudente, et ceux qui étaient un tout petit peu trop échevelés, vous savez que dans le Talmud, il y a un texte fameux où il y a des textes qui sont interdits d'interpréter tout seul, la création et la Merkaba d'Ézéchiel. Parce qu'on peut dire tellement de choses extraordinaires et fausses qu'on peut tromper les gens. Alors il faut être au moins plusieurs pour lire ces textes. Comme je le comprends, j'enseigne Ézéchiel, c'est quelque chose, Ézéchiel.
J'ai une question toute simple. Je trouve que votre exposé était d'une telle profondeur que je l'ai trouvé très difficile. Et je me pose beaucoup de questions, entre autres la suivante. On dit que les chrétiens disent Jésus est le Messie. Bien. Les juifs n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie. Je fais référence à notre catéchisme de notre jeunesse. Et alors je me dis, les juifs, quand est-ce qu'on va être d'accord avec nos frères juifs au sujet du Messie, puisque nous disons il est venu, et les juifs ont eu tort de ne pas reconnaître le Messie en Jésus. Il y a une confusion pour moi et j'aimerais que ça soit éclairci. Parce que je ne comprends pas pourquoi les chrétiens disent, l'Église a dit, Jésus c'est le Messie. Et quand on était au catéchisme de notre enfance, on nous disait, les juifs n'ont pas reconnu Jésus. Ces vilains juifs, c'est terrible.
Cette question est extrêmement intéressante, j'allais vous dire après, parce que
elle est extrêmement intéressante, la question de Marie-Lou, parce que elle permet de montrer qu'ici, on ne cherche pas à se convaincre, encore moins à se convertir les uns les autres, mais on essaie de voir non pas ce qui nous sépare, mais ce qui nous distingue. Et là, effectivement, il y a quelque chose de fondamental qui nous distingue. Et il ne s'agit pas d'essayer de se dire des choses pour se rapprocher les uns des autres, mais pour mieux se comprendre, c'est important de savoir quel est le regard respectif de chacun. Et je, une fois que vous serez intervenu, c'était une de mes interventions après, s'il nous reste du temps, le regard qui est posé par David Bannon, qui est sans concession pour les chrétiens et qui est extrêmement importante pour moi, chrétien. C'est important, je côtoie, j'ai beaucoup d'amis juifs qui sont extrêmement importants pour moi. C'est important de savoir comment ils reçoivent, je dirais, nos prétentions.
La réponse, pour tous ceux qui ne les connaissent pas, elle est nouveau, je le répète toujours, mais je crois qu'il faut le dire inlassablement, l'amitié chrétienne de France, elle a pour tâche essentielle de faire en sorte qu'entre judaïsme et christianisme, la connaissance, la compréhension, le respect et l'amitié se substituent aux malentendus séculaires et aux traditions d'hostilité. Elle veut en particulier par un dialogue fraternel et par une coopération active et amicale travailler à réparer les iniquités dont les juifs et le judaïsme ont été victimes depuis des siècles, à en éviter le retour et à combattre l'antisémitisme et l'antijudaïsme dans toutes leurs manifestations. Elle exclut de son activité toute tendance au syncrétisme et toute espèce de prosélytisme. Elle ne vise aucunement à une fusion des religions et des églises. Elle ne réclame de personne aucune abdication ni renoncement à ses croyances. Elle n'exige ni n'exclut aucune appartenance religieuse ou idéologique. Mais elle attend de chacun, dans la conscience de ce qui distingue et de ce qui unit juifs et chrétiens, une entière bonne volonté, une totale loyauté d'esprit dans la recherche, en même temps qu'un rigoureux effort de vérité. Voilà ce qui est à dire, à redire inlassablement.
Donc, il y a quelque chose d'assez paradoxal en christianisme. Quand on regarde de près les évangiles, on s'aperçoit qu'il y a un titre que Jésus refuse, celui de Messie. Et on voit bien que dans les évangiles, s'il y a un titre que Jésus revendique pour lui, c'est plus celui de prophète et encore plus de fils de l'homme. Et ce qu'on peut dire, c'est que historiquement, je ne pense pas que Jésus n'ait jamais revendiqué le titre de Messie. Or, ce qui est paradoxal, c'est que les premières générations chrétiennes vont l'investir du titre de Christos, de Messie. Mais ce n'est pas, je crois, le propre de Jésus, puisque même l'évangile de Saint Jean nous dit quelque part que quand, après la multiplication des pains, où Jésus ne fait que refaire un geste qu'a fait Moïse dans le désert, la manne, on veut le faire roi, et donc il passe à côté, donc. Où il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, quelque part, on voit très bien que, quelque part, le fond même du christianisme est de dire que Jésus est le fils de l'homme, mais entendant bien ce qu'est le fils de l'homme pour le judaïsme du premier siècle. C'est une figure qui est héritière, qui est héritée de Daniel. Hein, et dans Daniel, voici venir sur les nuées du ciel comme un fils d'homme. Le fils d'homme de Daniel est identifié au peuple des saints du Très-Haut, à Israël. Et dans une partie importante qu'on appelle les paraboles d'Enoch, qui est une portion de l'Apocalypse de Enoch. Pourquoi je parle beaucoup de Enoch? Car c'est un texte passionnant, et je rappelle que le texte Enoch est un texte canonique dans l'Église éthiopienne. On le connaît par une version éthiopienne d'un texte canonique. Les chrétiens d'Éthiopie lisent Enoch comme la Genèse. Il fait partie du canon de l'Écriture en Éthiopie. Donc dans cette fonction, dans cette partie qu'on appelle les paraboles d'Enoch, on identifie trois figures, le fils d'homme, l'élu, le Messie. Et les paraboles d'Enoch sont écrites au début du premier siècle de l'ère chrétienne, c'est contemporain des évangiles. On va donc voir que la catégorie de Christ va être, on pourrait dire, la première manière que les chrétiens vont avoir d'identifier Jésus. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait, Christ est Seigneur. Et c'est progressivement que, j'ai envie de dire, Christ va prendre un peu de son... va perdre un peu de son importance, Jésus-Christ et Monsieur Christ, au profit d'une autre qualification qui, elle, va prendre un sens transcendant, c'est Fils de Dieu. Et donc, je dirais, quand on regarde la marche chrétienne des premiers siècles, on s'aperçoit que progressivement, le Jésus-Messie, ça va devenir quelque chose de pas très très important, finalement. et on va plutôt aller du côté de fils de Dieu, qui là, bien sûr, nous sépare radicalement du judaïsme, c'est sûr. Dans les textes chrétiens les plus tardifs, je pense notamment à l'évangile de Jean en particulier, qui est le texte, l'un des textes les plus tardifs du Nouveau Testament. Donc j'ai envie de dire, c'est paradoxal que finalement le christianisme accorde tant d'importance à une figure messianique, alors que Jésus lui-même ne l'a jamais revendiqué pour lui. Là, il y a un vrai paradoxe chrétien. Parce que quelque part, qu'on le veuille ou non, je préfère parler effectivement de mouvement ou d'espérance ou d'utopie messianique que de Messie, parce que quelque part, il y a une ambiguïté du Messie. Parce que l'image du Messie peut être une image de puissance très forte. Or, précisément, ce qui me semble important, et j'essaie de vous le dire, j'espère, avec conviction, c'est que l'utopie messianique vient critiquer le pouvoir royal. C'est parce que le pouvoir royal, le roi a été incapable de conduire ce qu'il aurait dû faire, un peuple salut, qu'on projette dans l'utopie le roi idéal, mais qui n'est précisément un roi qui n'existe jamais que comme idéal. Et donc, quelque part, le messianisme est permanent en nous comme l'appel au dépassement de ce que nous sommes et au dépassement des images de puissance. C'est en cela que je crois qu'il est commun, effectivement, à la tradition judéo-chrétienne. Et donc, parce que aujourd'hui, en christianisme, ce n'est pas l'image de Jésus-Messie qui retient, c'est celle des fils de Dieu qui retient, essentiellement. Et là, il y a une vraie différence avec le judaïsme. Par contre, je crois que nous partageons pleinement avec le judaïsme cette idée qui, est pour moi, est proprement judéo-chrétienne et qui est étrangère à l'islam, c'est que l'utopie messianique vient critiquer nos catégories de puissance et de pouvoir. Et c'est en quoi il est important qu'un texte, effectivement, comme vous l'avez dit, de Isaïe 11, puisse être lu, donc lié à la Pâque chez vous, et chez nous lié à l'avènement de Jésus à Noël. Dans le temps de l'Avent, c'est un des textes importants, effectivement. Et donc, quelque part, ça veut dire que quand nous sommes en position de puissance, nous ne sommes pas dans un temps messianique. Et c'est vrai pour l'Église chrétienne, les Églises chrétiennes, comme pour le judaïsme. Lorsque nous sommes dans des positions de puissance, nous rejetons la vérité messianique. Voilà. Quant au catéchisme appris, je l'ai totalement désappris. Et c'est ce qui m'a sauvé la vie.
En le formulant d'une manière actuelle, contemporaine, moderne, on aurait chacun une part de messianité en nous et qui deviendrait un projet. Ce désir de projeter, s'améliorer, améliorer le monde, j'ai l'impression que ce désir de progresser, d'embellir le monde, fait partie de cette conscience messianique que nous partageons tous. Qu'en pensez-vous ?
Effectivement, ce qui est commun à tous les textes que je vous ai lus, c'est bien cela. C'est-à-dire finalement, c'est l'idée de faire advenir un monde autre et différent. Mais j'ai envie de dire, ça c'est lorsque Jésus dans l'Évangile nous dit « Le règne de Dieu est proche, convertissez-vous, croyez en la bonne parole », et il ne sort pas du judaïsme. Pas. C'est commun à toute la tradition judéo-chrétienne, cela. C'est-à-dire, le propre des croyants, c'est de souhaiter l'avènement du règne de Dieu. Et d'ailleurs, le Notre Père, proche du Kaddish, dit que ton règne vienne, et pas que mon règne vienne. Et donc, quelque part, j'ai envie de dire, c'est sans faire du syncrétisme, quelque part, il y a ici une filiation profonde. Alors que les chrétiens doivent reconnaître, mais que les juifs savent. Car
souvent je dis à mes étudiants, j'étudie des textes qui ne m'appartiennent pas, car je ne suis pas le premier lecteur de ces textes. Étant professeur du Livre, je ne suis pas le premier lecteur de ces textes. Israël les a lus avant moi. Et en même temps, je dois les lire en chrétien. Mais en sachant que je lis quelque chose qui ne m'appartient pas au départ. Et je pense que si l'Église l'avait totalement assimilé, il y a des choses qu'elle n'aurait pas dites.
Pardon.
Moi, je voudrais rendre hommage à votre... on est un certain nombre ici à vous connaître par RCF, donc on n'est pas surpris, mais rendre hommage quand même à votre rigueur, à votre honnêteté intellectuelle, parce que on n'a pas l'habitude d'inviter des conférenciers qui viennent vendre leur soupe, mais là, vous êtes allé comme très loin ce soir, et ça me fait plaisir d'entendre cette rigueur. Je vais intervenir rapidement sur... tout à l'heure, la question qui a été posée, le messianisme aujourd'hui, et on parlait de la Torah, je voudrais lire, il y a quelques mots seulement, ce que le lien qui est établi par Maïmonide, c'est cité par David Bannon, entre l'étude de la Torah et le messianisme. La finalité de l'ère messianique est de permettre à chaque individu de se livrer à l'étude de la Torah au service de Dieu, à la vraie méditation et à la perfection. Voilà, exactement. Et puis, par rapport au texte d'Ésaïe 11 que Samuel a lu, toujours Maïmonide, son interprétation, c'est... en fait, c'est une parabole, une allégorie qui signifie qu'Israël habitera en sécurité même parmi les méchants des nations païennes. J'ai trouvé cette interprétation d'Ésaïe très intéressante. Et puis la dernière chose, le texte de Bannon, qui pour moi est très important parce qu'il m'interpelle en tant que chrétien, protestant. Les chrétiens affirment, donc ça c'est la question de Marie-Lou, Les chrétiens affirment que la prophétie messianique s'est accomplie en la personne de Jésus, ce que les juifs contestent. Pour eux, le Messie n'est pas encore venu. Pour preuve, et c'est là que ça nous interpelle, pour preuve, sa venue aurait dû transformer la société, instaurer une ère de justice et de paix universelle, tout en transfigurant la nature de l'être humain. Or, Jésus a laissé le monde dans l'état où il l'a trouvé. Et puis là, encore plus pour nous chrétiens. Même au sein de la chrétienté, la concorde, signe de l'ère messianique, est loin de régner au sein de la chrétienté.
Mais il y a peut-être encore un texte plus fort, je trouve. Et en tout cas, moi, qui m'interroge encore plus fortement, c'est le texte de Hans Jonas. C'est le concept de Dieu après Auschwitz. Et dans la finale de ce texte, qui m'a toujours fortement impressionné, c'est il dit « Pourquoi les chrétiens veulent-ils vraiment que l'histoire ait une issue heureuse ?» J'avoue que cette phrase de Jonas, elle me poursuit sans que j'ai de réponse.
Nous avions effectivement étudié le concept de Dieu approché dans Jonas et trouvé les réponses. On ne peut pas trouver de réponse, s'il n'en a pas trouvé, on n'en trouve pas. Mais ce que je peux dire ce soir, c'est que ici, en tout cas, et maintenant, lorsque nous avons comme ça des intervenants comme vous, lorsque nous avons des écoutants, et un chemin qui se fait, qui est le chemin de l'homme, d'aller vers soi, et surtout d'aller vers l'autre aussi, c'est une réconciliation, parce que moi, ce que j'entends en tant que juif ce soir me réchauffe le cœur, et même si j'avais envie de dire les mêmes choses que Norbert, mais je n'ose pas toujours les dire, mais c'est vrai qu'il y a eu de tels propos obliques. pratiquants à certains moments de la vie qui ont pris une incidence tellement puissante que nous en avons subi en tant que peuple juif pendant 17 siècles, mais de telles horreurs que c'est très très difficile pour le monde juif d'entendre parler de Jésus-Messie dans sa bonté, dans tout ce que ça pouvait apporter, parce qu'il y avait un catéchisme qui était extrêmement contre le juif, et ça a été un enseignement du mépris épouvantable. Alors grâce maintenant effectivement à Vatican II, grâce à Nostra Aetate, ça ne fait que 40-50 ans seulement, mais c'est déjà bien, c'est déjà même beaucoup, pour l'instant ça tient. Et puis alors quand j'entends des personnes comme vous, ce que vous avez dit à RCF, avec Jean-François, que effectivement en tout homme il y a aussi un juif, alors certains de mes frères juifs peuvent penser que ça y est, à nouveau on nous prend notre identité, il y a une usurpation. Moi je n'entends pas comme ça, je pense que dans le cœur, s'il y a vraiment ce travail de fond de la Torah, après tout Jésus était un juif, et plus je lis les évangiles, plus je retrouve énormément de choses de la Torah. Et je me dis que là, il y a une continuité, et que c'est peut-être le mystère, est-ce le dessein de Dieu. Pour répondre à Marie-Lou, moi en tant que juive, je dirais pourquoi, oui, il est resté des juifs de toute façon. Je pense que c'est dans le dessein de Dieu. Il est marqué ce petit reste. Est-ce que ce petit reste, ce sont ces quelques millions aujourd'hui de juifs parmi les milliards d'humains? Oui, sans doute. L'Union des Nations, mais prenons-nous vraiment modestement, très modestement, humblement. Et puis, Jésus venant de ce peuple, ça c'est un questionnement pour nous juifs, aujourd'hui. Juifs non cultivés, juifs qui n'étudient pas les évangiles, qui se disent, mais pourquoi Jésus était-il juif? Et voilà. Peut-être comme ils se sont dit, pourquoi le cardinal Lustiger, en étant juif, était-il devenu chrétien? Et là, de rendre un honneur à cet homme et d'avoir été très touché par tout ce qui s'est passé autour de ses obsèques, de sa disparition, et en pensant que ce fut pour moi, en tant que juif, un grand homme. Et ce kaddish a été dit au moment de son ensevelissement, et effectivement les prières chrétiennes après, c'était d'un touchant, c'était magnifique. Mais des hommes comme ça, des êtres comme ça, amènent à la réconciliation, et peut-être nous ce soir à continuer, parce qu'on a encore, on a déjà appris vraiment beaucoup, beaucoup de choses ce soir, et on a à les intégrer. Y a-t-il d'autres questions encore? On a encore un peu de temps, on a encore, si c'est bien pour vous, si c'est bien pour vous, est-ce que d'autres veulent dire quelque chose?
Oh, simplement, ça c'est une banalité, mais je me suis trouvé 2-3 jours de suite en compagnie, enfin, c'était pas la seule, du cardinal Lustiger, bien sûr, à Jérusalem, lors de l'inauguration du nouveau musée de Yad Vashem, et nous avons beaucoup parlé, justement, et j'ai eu un très grand plaisir à échanger avec lui, parce qu'au fond, il était prédestiné à ça, je crois. Il s'est entendu dire souvent, on ne peut pas être juif et chrétien, il a beaucoup souffert de ça. Ça a suscité des rencontres avec des co-religionnaires, avec des rabbins sur le plan international, et petit à petit, en s'expliquant, plus le dialogue avançait, et plus il s'est fait comprendre, et mieux il a été compris des siens. Je crois que vraiment, quand il est parti ces dernières années, il avait fait un travail de rapprochement extraordinaire. S'il était peut-être prédestiné à ça, et s'il fallait en passer par là, c'est toujours le grand mystère aussi. Mais j'ai eu ce plaisir d'échanger avec lui quelques heures, en tête à tête, et je vous assure que je suis revenu complètement réconcilié avec une grande partie de ces critiques qui ont été faites et qui étaient justifiées pour certains, c'est vrai. Mais cette rencontre avec lui m'a marqué énormément, et ça je tiens à le dire. C'était un homme d'une tolérance et d'une ouverture exceptionnelle. Il a fait avancer les choses en rapprochement judéo-chrétien énormément, à partir du moment où on l'a mieux connu.
Merci de votre témoignage, Jeannette, parce que c'est vraiment ce que j'avais envie de dire concernant cet homme. Plus, Shaoul, notre Israël.
Le premier roi, oui. Bon, il y a ce sujet qui me dérange toujours, c'est cette question, pourquoi les Juifs n'ont pas changé de religion et qu'ils ne sont pas devenus chrétiens. Et ça, c'est vrai que je ne peux pas ne pas répondre, même si la réponse va être très rapide. Moi, je pense que on ne doit pas, tout ce qu'on écoute n'est pas toujours vrai. Alors, même si on a écouté dans la synagogue, ou même si on a écouté dans l'église, ou même au catéchisme, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça, c'est la base des choses. Parce que les gens prennent, je lis ça dans un livre, alors c'est déjà une référence. Et avec ça, j'avance toute ma vie avec. Les Juifs n'ont pas accepté le Christ. Moi, je retournais le problème. Parce que les Juifs, le Christ, il était juif. Pourquoi les chrétiens nous ont pris ce juif? On peut toujours. Mais moi, je pense que la base de source de toute notre discussion ce soir, c'est la tolérance. J'accepte le chrétien m'accepte. Et puis on vit ensemble, et c'est ça l'avancement. Et si je voudrais rajouter un mot par rapport au Messie, je pense qu'il y a le mot Gan Eden, ça veut dire le paradis. Ça va avec. On attend le Messie parce qu'il va nous amener un meilleur monde. Et c'est vrai que moi, en tant que juif, peut-être pas trop religieux, moi, je pense que le Messie, c'est un peu la dernière solution de tout. Non. Parce que pendant notre vivant, on a des problèmes, on rencontre des problèmes, on nous dit que ça va s'arranger si on fera ça, on fera ça, si on sera un bon juif ou si on sera un bon chrétien. Et c'est vrai que les choses ne s'arrangent pas, comme la mort qu'on peut rencontrer. Là, il y a le Messie qui vient à la fin, parce qu'on parle de triat ametim, ça veut dire que le mort va revenir quand le Messie va venir. Ça veut dire qu'on m'a laissé toujours une dernière clé, que même si on m'a dit « prie, prie », cette personne malade va vivre. Mais malheureusement, elle est partie, il y a toujours le Messie qui va le sauver quand il va venir. Ça veut dire que c'est une clé qui est la dernière des dernières. Et je vous remercie pour cette soirée très, très, très intéressante.
Merci, Shaoul.
Non, merci de votre témoignage. Et en même temps, j'ai envie de dire, il ne faut pas aussi que le Messie devienne un opium. Je suis marqué par ma tradition. Vous savez, j'étais jeune en 68. Alors, on avait du Marx à l'époque, même si je suis prêtre. C'est plus vrai aujourd'hui. À l'époque, on me faisait lire ces textes. Aujourd'hui, c'est plus de mode. C'est-à-dire, je crois qu'effectivement, et pour répondre un peu à ce que disait Banon, je pense que si on accepte que nous avons en nous une part du messianisme, de l'ère messianique, c'est pas étonnant que le monde ne soit pas bouleversé. Mais par contre, cette part que nous avons en nous peut nous faire transformer des choses dans ce monde. Et je pense qu'effectivement, il serait un peu trop illusoire, et je comprends que les rabbins ici ont été prudents de penser que tous les problèmes d'Israël seraient réglés par le Messie. Et on comprend pourquoi les rabbins, à partir du deuxième siècle, ont dit non, soyons lisons la Torah, c'est l'étude de la Torah qui nous changera profondément. Et donc, j'ai envie de dire, peut-être que il y a une manière chrétienne de comprendre la messianité de Jésus en disant c'est cette part qui en nous va plus loin que ce que nous sommes. Et c'est pas que le monde va être transformé radicalement, parce que depuis 2000 ans le monde n'est pas meilleur, on a l'impression parfois qu'il est pire, mais n'empêche que l'étoile du Messie, c'est quelque chose qui m'empêche de dormir tranquille et qui m'empêche de me satisfaire pleinement du présent. Et c'est là où c'est important qu'elle existe. Parce que quelque part, elle me dit, tu ne peux pas te contenter de ce qui est. Et donc, c'est là où l'utopie devient action, et action transformante.
Voilà. Finalement, le Messie, ça me fait dire que le règne de Dieu n'est pas encore là, mais en tradition chrétienne, et je pense en judaïsme pareil, c'est pas l'homme qui fait venir le règne de Dieu, c'est Dieu lui-même. Bon, donc n'attendons pas que... Mais par contre, le fait que le règne de Dieu ne soit pas encore là, ça crée en l'homme une insatisfaction, dans le croyant, une insatisfaction, et j'ai envie de dire, c'est ça le ferment messianique. C'est de se dire... c'est ce qui fait que les gens ordinaires sont devenus extraordinaires. Voilà. Extraordinaires. Alors, et quelque part, ils ont été des lumières pour leurs contemporains. En christianisme, je pense à des gens comme François d'Assise, par exemple, bon, ou Mère Teresa, puisque on a parlé beaucoup de Lididai, mais il y a quand même 10 ans que Mère Teresa est morte, c'est pour moi autre chose, vous me permettrez d'avoir ce jugement. Bon, oui, c'est épouvantable. Les choix journalistiques. Bon, mais je me dis, qu'est-ce qui fait que des gens comme ça ont fait qu'on ne se contente pas et deviennent universels? Un Gandhi, pour moi, est universel, pareil. C'est universel. Bon, il n'est pas récupérable. Et je crois que quelque part, ce qui fait que chacun restant ce qu'il est, il y a dans chaque tradition religieuse des gens qui ne sont pas récupérables, mais qui nous font grandir. Que ce soit Moïse, Élie, David ou Jésus. Et ça peut être Gandhi aussi, ça peut être Martin Luther King aussi. Et ce sont des gens qui nous font grandir et qui, quelque part, créent en nous une insatisfaction messianique. Voilà.
Alors, ça sera la dernière question, là. J'allais clore, mais je vous passe le...
Oui, pardon. J'aimerais modestement rebondir parce que j'ai eu l'idée de tout à l'heure, avant que vous parliez de ce paradoxe d'amour entre les protestants et les catholiques. Ce fils de Dieu qui est en même temps fils de l'homme. Et je crois que je ne dormirais pas très bien cette nuit si je ne vous partageais pas le fait que j'ai perdu un fils il y a 2 ans et demi et que pour moi, chaque enfant est un Jésus en puissance, et que pour chacun, pour les êtres qui sont croyants et qui ont mis tout leur savoir et toute leur prière pour en faire des êtres, toutes ces personnes qui ont réussi dans leur vie, elles ont derrière des mamans et des papas qui ont construit, aidé leurs enfants à se construire, et qu'aujourd'hui, peut-être qu'on peut croire et espérer et construire avec nos familles, nos enfants, nos petits-enfants.
Pardon. Merci de votre témoignage. Merci à nouveau à vous, Père Abadi. C'était vraiment un très très grand moment. J'ai quelques informations à vous donner. Il y aura un voyage, on avait parlé de voyage en Israël, plusieurs de vous, d'entre vous étaient intéressés. J'ai reçu dans l'été, dans le courant de l'été, une proposition faite par le... Je vais sortir mes papiers, ce sera beaucoup plus simple, parce que là je suis encore dans toute cette émotion de tout ce que j'ai entendu. Et organisé par un groupe qui s'appelle Teshuvah sur Paris, être juif en Israël, et c'est surtout parce que c'est le père des bois. Voilà, c'était le nom que je cherchais, cet homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration et que j'ai rencontré. Et le père Patrick des Bois, je vous en ai parlé, n'est-ce pas, donc je ne recommence pas. Malgré le fait que si vous voulez aller visiter le musée juif de la Shoah, il y a maintenant toute une exposition depuis juin de la Shoah par balle, de tout ce qui s'est passé en Ukraine. Cet homme organise maintenant
des voyages en Israël. Il y en aura un du 7 au 17 octobre. Alors bien sûr, j'ai téléphoné en disant, mais moi je ne vois mes amis que le 4 septembre, s'il y en a quelques-uns qui souhaitent se joindre au groupe. Et on m'a dit, oui, oui, très vite, mais je suppose que pour vous c'est certainement trop court. Par contre, le programme est absolument fantastique, parce que ça fait peut-être 10 fois que je vais en Israël, j'ai ma famille là-bas. Il propose déjà tout ce qu'on peut visiter classiquement, mais toujours dans un contexte vraiment assez fantastique pour découvrir qu'est-ce qu'un juif. Et puis il y a le contexte politique aussi, hein. Mais on n'échappe pas à ça, et c'est intéressant, puisqu'on en avait parlé l'autre fois. Alors si cela réussit, m'ont-ils dit, peut-être y aura-t-il un autre voyage. Là, je serai informée très vite, je vous en parlerai. Et plutôt, on a beaucoup réfléchi avec Jean-Marc, nous, on ne se sent pas de vous construire un voyage. D'abord, ce serait très cher, mais s'affilier à un groupe, ça serait certainement très bien. Ce voyage, par exemple, du Père des Bois, 1 785 € au départ de Paris, 10 jours, 11 jours, tout compris. Donc, c'est vraiment pas cher, mais il faut aller à Paris pour se regrouper là-bas. Des détails comme ça, ce n'est pas ça ce soir qui compte, sauf un budget. On avait quand même dit peut-être autour de 2 000 €. Mais c'est surtout la qualité de ce qui se fera. Donc je vous en donne l'information. Si quelqu'un désire faire ce voyage, c'est là, c'est tout de suite, c'est bientôt, mais qu'il n'hésite pas à me téléphoner. Je lui donnerai tous les renseignements. Je n'ai pas fait de photocopie, mais j'ai tout ici, voilà, avec moi. Alors il y avait cette information.
Non, avant de passer à l'information suivante, je pense que ce serait bien que chacun réfléchisse pour une des prochaines réunions de façon telle qu'on repassera cette information-là, et s'il est possible de mettre au point un voyage, qu'on sache le nombre de personnes qui seraient intéressées, savoir si c'est faisable ou pas de s'intégrer à un groupe. Donc je pense que dès maintenant on peut y réfléchir.
Oui, merci Norbert. Mais on l'avait dit l'autre fois, maintenant il y a des nouvelles personnes. Et effectivement, être juif en Israël, qu'est-ce qu'être juif, etc. Ça sera tout le questionnement. Je voulais vous informer des fêtes juives qui arrivent là le 13, et toujours nous commençons la veille au soir. Il fut un soir et un matin, première étoile. Donc le 12 au soir, c'est la première soirée, l'ouverture de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le nouvel an juif. Le 13, ce sera vraiment la journée, et le 14 aussi. Nous faisons 2 jours dans nos pays, et en Israël, en principe, ils font juste un jour, puisqu'ils sont dans le pays. Ensuite, 10 jours après, il y a le Kippour, le jour du grand pardon. Ça va tomber un Shabbat. Alors déjà, nous, c'est le Shabbat à Gadol, mais alors là, ça sera vraiment encore plus à Gadol, c'est-à-dire encore plus grand, parce que ça tombe à Kadol Meod, parce que là ça tombe un Shabbat, et donc ce sera vraiment un grand jour, et vous tenir au courant de cela, bien sûr, puisque nous partageons. Alors, Jean-François Culacros, très gentiment, m'a passé des cartes pour ceux qui désireraient, qui ont des amis juifs, et qui désireraient leur renvoyer une carte « Bonne année à nos amis juifs » de la part du monde chrétien. Donc il y en a là quelques-unes. 40 centimes, Jean-François, c'est ça, la carte. Donc ceux qui le désirent, bah, peut-être auprès de Jean-François, parce que tout lui appartient. Si. Oui, mais puisque là, on peut les commander, dit Jeannette, mais c'est... Non, puisqu'on en a maintenant. Mais voilà.
Pour la...
Très bien, pour l'année prochaine, puisque là, il y en a peut-être suffisamment pour ceux qui le désirent ici. Et puis, si vous désirez en prendre plusieurs, selon le nombre de vos amis juifs, peut-être, voilà. J'avais pas trop de choses et j'ai terminé. Nous pouvons dire que... Alors, c'est vrai que je n'ai pas fait les excuses comme je fais habituellement. Le père Barcellini, qui d'habitude est toujours là, et qui vraiment regrette profondément et demande que vous l'excusiez, n'a pas pu venir. Il a été empêché, obligé de retourner en Italie, brutalement, et en souhaitant pour lui que ce ne soit pas trop grave, et ne pouvant pas venir. Nos amis Vincel, un couple des anciens qui ont créé avec Jeannette, avec d'autres, l'amitié judéo-chrétienne, et puis également nos amis qui sont là ce soir de...